Donc, n'ayant aucune suggestion, n'est-ce pas? Bon, eh bien, on continue sur notre lancée. Alors, comme on n'a pas eu l'occasion cette année d'approfondir énormément, mais enfin, puisqu'on a eu seulement 4 rendez-vous, je crois que c'est la première année à Montpellier où je suis venu si peu de fois. Ben, ça fait rien, c'est pas une chose, c'est pas très grave. Hein. L'année prochaine, on reprendra le rythme des rendez-vous à une allure vertigineuse, mensuelle, sans rater un seul rendez-vous, n'est-ce pas? Ce sera très très bien. Et on commencera en plus l'année prochaine par Lourdes. Pour ceux qui ne savent pas, on commencera par Lourdes. Ça plus ou moins entre le dimanche et le dimanche, du 10 au 17 septembre. Et on sera à Lourdes. On va faire un pèlerinage cette année au lieu d'aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, au sud de l'Italie, à Rome et à Gandolfo, ou alors au centre de l'Espagne, eh ben, ou à Fatima, je ne sais pas quoi. Parce que c'est dommage. À chaque fois, ça coûte des fortunes aussi, il faut reconnaître. Hein. Et puis, ça coûte de la fatigue aussi, quelque part. Donc, pour éviter que le chauffeur de car fasse une dépression nerveuse, etc. Parce que maintenant, il faut se méfier. La dernière fois que j'ai fait un pèlerinage en car, le curé, le prêtre qui nous accompagnait et le chauffeur de car qui nous conduisait ont eu une dépression nerveuse à l'arrivée. Bon, alors, donc, pour calmer les esprits, on va faire un peu moins fort. On ira à Lourdes et on va passer 8 jours. En même temps, je termine ma neuvaine sacerdotale. Pour ceux qui ne savent pas, ce sera vraiment gentil de prier pour moi parce que je termine ma neuvaine. C'est mes 9 ans de sacerdoce. Donc on fêtera mon 9e anniversaire ou mon 10e, je ne sais plus. 9e, enfin, je ne sais plus. Bon, je termine la neuvaine, quoi. Hein? C'était en septembre 86, donc c'était le 13-14 septembre 86. Alors, je ne sais pas, parce qu'il y a un zéro entre les deux. Alors, je ne sais pas si ça fait les mathématiciens, ça fait combien? Ça fait 9e anniversaire ou 10e. Voilà, bref, on le fera à Lourdes. Alors, à Lourdes, on se fera en même temps un pèlerinage. Pardon? Ça fera 9 ans. 9 ans complets. 9 ans complets. C'est la fin de mes 9 ans, oui. Oui, tout à fait. Ah, pourquoi tu veux une preuve? 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. Il faut apprendre à compter sur ses doigts. 1, 2, la boule. Voilà. Alors, là-bas, à Lourdes, ce que je pense qu'on fera, on est toujours prêt à changer notre veste au dernier moment, bien entendu. Mais bon, on fera quand même une espèce de pèlerinage. On ira une fois dans la piscine, une autre fois on ira à Bétharam, une autre fois on ira faire le pèlerinage au lieu où la Vierge, où tout Lourdes avait été consacré à la Vierge, devant Saint Charlemagne, comme disait Jeanne d'Arc. Devant Saint Charlemagne, Lourdes a été consacrée à Marie. Une des rares villes de l'Empire, même peut-être la seule, je crois, qui a été consacrée à Marie, du temps de Charlemagne. Donc, vous voyez bien qu'il a fallu attendre 1053 ans pour que la Vierge apparaisse, n'est-ce pas? Vous connaissez ça, ces petits chiffres qui sont très amusants. Donc, on fera le pèlerinage de la consécration de Lourdes à Marie, 1053 ans avant l'apparition. On ira aussi à Barthès, on ira à Bétharam, on ira... Enfin bref, il y a une quantité considérable de petits pèlerinages à faire. Et en même temps, on sera tout près de la grotte Lourdes. Tout ça sera super sympa, ça sera bien. Ça sera reposant, tout. Et on fera... Du coup, ça permettra de faire une petite... pas retraite, parce que c'est, je sais pas... moi, je suis pas capable de prêcher une retraite. Mais... je sais pas, on va essayer de j'ai envie de résumer, enfin pas de résumer, mais... j'ai envie d'essayer de faire une espèce de résumé, enfin, de microprocesseur, une charte, voilà, une charte, c'est très bien une charte. Une charte, voilà, une charte pratique de mystique concrète pour la préparation du retour du Christ. Voilà. Donc, c'est très simple. Alors, remarquez bien que j'ai des pompes. J'ai des sources et j'ai des pompes. Mais bon, je ne dirai pas c'est qui. Mais, voilà. Donc, une petite charte pour la préparation de la Terre Nouvelle qui doit accueillir le retour du Christ, une préparation pour nos corps, notamment la dernière préparation pour le mystère de la résurrection. Parce que vous savez que la dernière portion de l'humanité avant le retour du Christ, avant le retour du Christ, il y a la résurrection de la chair, vous le savez. Ah, et ben voilà, comme ça vous l'apprendrez. Voilà. Et donc, la grande préparation avant le retour du Christ, comment faire pour que notre corps terrestre puisse être disposé spirituellement à ce dernier acte de la résurrection et de la glorification de la chair. Vous savez que le retour du Christ, à la résurrection, ceux qui seront encore sur la terre et qui auront un corps préparé ne connaîtront pas la mort. C'est ce que dit saint Paul dans l'épître aux Thessaloniciens. Donc la dernière préparation de notre corps pour qu'il soit un corps spirituel. Voilà. Bon, on va tâtonner, hein. Non, on va pas tâtonner. On est sûr de notre coup. on a l'habitude de pas avoir peur d'être présomptueux. On n'a aucune prétention puisqu'on est plus pire que Job sur son fumier. Et tout le monde le sait, on pue. Comme dit Galien. Tout le monde le sait. On est un groupe pour ça remarquable. Donc, ça, on risque pas. En même temps, vous êtes les représentants, puisqu'ils sont tous restés à Montpellier pour la plupart. Bon, mais ça fait rien. La fine pointe, vous transmettrez, n'est-ce pas, au retour. C'est vrai, on n'a aucune prétention. Moi, je vois à chaque fois qu'il y a des sessions ici à Cotignac, c'est toujours des gens bien, ouais, des gens hyper bien, quoi. Des gens bien. Tandis que nous, on est au ras du sol. Au ras du sol. Bon, cette année, donc, ça, c'est pour vous annoncer ce qu'on fera à Lourdes. Donc, retenez Lourdes. On a pris Lourdes aussi pour que ça ne coûte pas cher. De manière qu'au lieu que ça nous coûte 3000 francs, je crois, les 10 ou 12 jours, comme d'habitude, ça va coûter 1200 selon les bourses. Voilà. Voilà, alors ça c'est bien ça. Ça permettra aux plus démunis d'entre nous, n'est-ce pas, d'être là. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a autre chose comme nouvelle, hein? Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'autres choses comme nouvelles à annoncer. Oui, nous partons, enfin j'aurai le bonheur de partir en Lituanie cet été, avec d'ailleurs quelques représentants qui sont ici. Oui. Et justement, je suis en Lituanie et nous marions Jurga, la petite lituanienne rousse, n'est-ce pas, et Pascal. Voilà. Alors là-bas, qu'est-ce que nous ferons là-bas, je ne sais pas, on va voir. Mais enfin, en principe, si Dieu le permet, eh ben, on va les marier. Mais c'est pas moi qui fais le mariage, hein, c'est le père Mossu qui fera le mariage, qui est le prieur de la fondation des frères de là-bas, de Saint-Jean. Mais enfin, je suppose qu'en même temps, on en profitera pour faire une petite mission en Lituanie. On ne sera pas nombreux, on sera peut-être 7, 8, 10, 15, je ne sais pas. Bon. Enfin, on fera une petite course apostolique, n'est-ce pas ? Voilà. Bon, alors, maintenant, le programme de nos deux jours ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va faire les choses comme à notre habitude, si vous voulez, sans que ce soit pas de course. Alors, là, on va essayer de. Ce que je voudrais, c'est mettre un point final pour que on n'est plus à revenir dessus, sur le PPP. Et je voudrais qu'on termine ici le PPP. Et donc la fameuse PPP sur la guérison de la mémoire, la guérison des souvenirs. Je voudrais qu'on mette un point final là-dessus parce que... C'est un silence divin, d'ailleurs, mais c'est un silence total qui fait que, si vous voulez, bah, voilà, vos instincts, vos fantasmes, vos pensées, vos... tout ça... Pendant une heure, sans vous arrêter, et il n'y a que l'Esprit Saint qui est libre à l'intérieur de vous de se répandre. Et vous vous regardez, vous êtes spectateur pendant l'oraison. Et on aime Dieu dans l'oraison, donc on aime l'Esprit Saint. Bon, ce passage, de manière qui est un passage, parce qu'une fois qu'on l'a fait, le passage, surtout avec la Sainte Vierge, c'est très facile avec l'Immaculée pour oraison dans les quatrièmes demeures. Alors, notre but, c'est pas les quatrièmes demeures, hein, je vous signale. Notre but, c'est d'arriver à l'union transformante. Mais par exemple, quand on donne vue du corps, justement, dans l'union transformante, notre corps est totalement spiritualisé, par exemple. On en fait l'expérience quelquefois, si vous voulez, dans notre oraison. Parce qu'on connaît l'Immaculé, qu'on fait l'oraison avec l'Immaculé. Ah oui, alors, de temps en temps, on a quelques petites touches divines qui fait qu'on touche un petit peu de ce que les grands contemplatifs, comme cette Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, vivent dans vive flamme d'amour, dans la septième demeure. Bon, et là, il y a un certain nombre de personnes, c'est nous, par exemple, hein, moi, par exemple, qui bloquent aux troisième demeure. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas résolu un certain nombre de problèmes psycho-spirituels. Et c'était le but, d'ailleurs, du PPP. Donc, ce que je vous propose, sauf si vous avez, sauf si vous voulez qu'on parle d'autre chose, vous savez que moi, vous appuyez sur un bouton, l'imprimante fonctionne dans à droite, à gauche, hein, c'est pas grave. Mais moi, je vous propose ça. Alors, il nous manquait pour ça de regarder la gestion des émotions. Alors, en même temps, c'est bien, parce que c'est sympa, quoi. Enfin, au moins, vous verrez que vous ne serez pas largué. Parce qu'on se reconnaît bien. Ça, des émotions, en principe, on en a tous, alors. Et on a du mal à les gérer, n'est-ce pas? Bon, alors. Donc, premièrement, rappel. Rappel de ce qu'on avait déjà vu et qui va servir de support pour terminer. Le tableau que je vous donne ici, c'est les étapes du chemin que nous avons déjà vu pour la guérison de la mémoire. Donc, du travail de deuil. Mais je ne savais pas donner le tableau, donc le voici. Donc, très rapidement. Donc, nous faisons là, ici, jusqu'à... Il est 3 heures, donc jusqu'à 4 heures. On va essayer de regarder un petit peu ce qu'on avait déjà vu, mais sous une forme synthétique. Et puis ensuite, on aura l'office en principe à 5 heures. On aura l'adoration du Saint-Sacrement à 5 heures et demie. On va se retrouver donc à 6 heures, mais je ne sais pas du tout, je suis complètement obligé de demander à quelle heure on avait le repas au JMJ. Alors là. Donc on aura le repas au JMJ, et ce soir, avant de se coucher, disons par exemple entre... je sais pas, c'est un petit peu coin-coin tout ça. Oui, parce qu'il faudra prendre les chambres. Oui, non, ça, on aura le temps pour le coup de prendre les chambres, parce qu'avec tellement, on aura 4 heures pour ça. Entre 5h30 et... Si, mais enfin, entre 5h et 9h, on peut pas dire. Mais alors, ça dure un quart d'heure. Alors, donc, on va voir si on est disposé à faire une petite psy sur le Sacré-Cœur, par exemple. On va dégager des... On va parler du Sacré-Cœur, ce soir avant de se coucher, c'est mieux. Qu'il y a au moins quelque chose de spirituel. Parce que c'est spirituel, hein, attention, hein, c'est pas dire... Bon, et puis demain, on aura à nouveau le matin. On va se lever quand même le matin. Et puis, après le petit-déj, on prendra avant la messe, qui a lieu à 11h ou 11h30. 11h. Bon, alors, à 8h30 ou 9h moins le quart, on continuera la question, donc, de la gestion des émotions. C'est important, cette histoire de gestion des émotions, je vous préviens, parce que... Il faut qu'on arrive quand même, un jour ou l'autre... à prendre un chemin nouveau, quoi. On ne va pas rester coincé à piétiner dans nos ornières dans lesquelles on est depuis 10 ans, 5 ans, 15 ans, soi-disant on veut se convertir, et on a toujours les mêmes ornières. Alors quand même, un jour ou l'autre, il faut se dégager, quoi. Le Seigneur nous en dégage. Ben, il faut apprendre à laisser la liberté au Saint-Esprit nous dégager de ces ornières dans lesquelles on est. Et c'est ce qu'on va voir. Ces émotions, quelquefois, nous submergent complètement. Quand on dit ces émotions, c'est une espèce de paralysie, des phénomènes d'inhibition qui fait que finalement, on n'avance pas dans la vie spirituelle. On reste stable, si vous voulez. On arrive à peu près à persévérer, à peu près. On a quelquefois des moments parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Oh, ça c'est génial. Bon, très bien. Mais, en même temps, pouf, allez, on retombe. On retrouve un marécage, etc. Puis on essaie de se ressortir. C'est bien. Mais enfin, il faut vivre aussi un jour du mystère. Donc, ça c'est le chemin de croix, ça. C'est les trois premières demeures. Mais un jour, il faut descendre dans les blessures du cœur du Christ. Hein. Quatrième demeure. Le repos du sabbat, et vivre de la résurrection, l'union transformante, quand même, un jour ou l'autre. Donc il faut accepter de se convertir sur ces nœuds qui sont en nous et qui montrent que nous refusons quelque part de lâcher prise. Toutes les émotions qui sont en nous et qui sont très embêtantes, comme la dénégation, le sentiment donc de peur, le sentiment de révolte, le sentiment de tristesse, le sentiment d'angoisse, d'exaltation, le sentiment de découragement. Voilà, tous ces sentiments qui sont en nous prouvent que nous n'avons pas fait ce travail de deuil, qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas voulu décrocher, un pardon que nous n'avons pas voulu donner, ou quelque chose, une sécurité terrestre à laquelle nous sommes accrochés et que nous n'avons pas voulu décrocher. Et du coup, on tombe petit à petit, surtout si ça dure longtemps, dans là des problèmes de maladies somatiques ou de maladies psychosomatiques ou de maladies carrément problématiques. Sans parler, bien sûr, des maladies spirituelles qui sont l'état de péché qui est sous-jacent. Parce qu'il y a un péché que je n'ai pas voulu évacuer. Et que je ne veux pas évacuer. Et c'est ça qui est à l'origine de tous ces sentiments. Donc demain matin, on reprendra de 8h30 à disons 10h, 1h30, quelque chose comme ça. Et l'après-midi, pareil, comme ça on aura mis un point final sur le PPP. D'ailleurs, je crois que c'est intéressant. C'est très intéressant. De temps en temps, vous inquiétez pas, je saurais faire quelques petites... Je ne sais pas, j'en sais rien, si vous priez pour moi. Bon, rappel. Le travail de deuil, je vous rappelle qu'ici, pour la guérison de la mémoire, il y a un certain nombre de choses, un certain nombre d'étapes qu'il faut respecter. On sait très bien qu'il y a des choses, il y a des événements dans notre vie qui nous ont fait souffrir. Ça, c'est sûr. Et qui viennent quelquefois des autres, qui viennent quelquefois de circonstances, qui viennent quelquefois de nous. Ordinairement, qui viennent des trois ensemble, n'est-ce pas? Par exemple, ma mère s'est pas occupée de moi, elle avait ma sœur cadette comme chouchoute, c'est épouvantable, et ci et là, et j'en veux toujours à ma mère. La première fille dont je suis tombé amoureux quand j'avais 15 ans ou 16 ans, c'est mon frère jumeau qui me l'a piqué. Et la deuxième, c'est pareil. Et à la dixième, c'était encore pareil. Alors bon, pff. Donc difficile à gober. Et 30 ans après, j'ai encore des restes de ça. Il y a des pardons qui ne sont pas faits. Il y a des concupiscences qui ne sont pas réglées, qui se transposent. Il y a des deuils qui ne sont pas faits. Par exemple, j'ai perdu ma mère. Je suis orphelin de mère depuis quand j'avais, par exemple, 12 ans. Au moment où mon corps se transforme, je deviens orphelin de mère. Alors j'en veux au monde entier à ce moment-là. J'en veux au monde entier. Alors, c'est difficile à assumer un événement comme ça. Et c'est difficile de faire ce qu'on appelle donc le travail de deuil. Et pour faire un travail de deuil de ce type-là, psychologiquement, c'est très dur. Hein. Notre âme va passer l'épreuve illuminée à condition de passer par toutes les étapes du don. Je vais m'offrir, je vais accepter, je vais pardonner, je vais y voir clair, je vais... Voilà. Mais je vais passer par les 7 étapes que nous avons vues. Donc voilà, c'est les étapes du chemin. Toujours au départ, c'est votre première réaction. Si vous vous rappelez bien, à chaque fois que vous avez, prenez pour chacun d'entre vous l'événement qui vous a fait le plus mal, disons le plus proche, donc celui qui est le plus facile pour vous de vous rappeler quelque part, c'est à moins de 20 ans quoi. Bon. Voilà. Alors vous dites non, c'est pas possible que ça puisse m'arriver à moi. Vous avez une première étape de réaction, on appelle ça la dénégation. Bon, la dénégation. Et l'intérêt de ce tableau, je vous l'avais dit, c'est que du coup, l'étape de la dénégation, ça vous met dans un état de stupeur. Dans un état de stupeur. Oh, c'est pas possible que ça puisse m'arriver à moi, une chose pareille. Et si, et là, vous comprenez, c'est des... Bon. Alors du coup, quand vous vous tournez spirituellement du côté du bon Dieu... Je préfère pas insister puisqu'on avait déjà vu le visage de Dieu à ce moment-là quand vous priez. Vous voyez que Dieu, bah, finalement, c'est quelqu'un qui vous fait souffrir. Quand vous êtes dans un état de stupeur et que le mal vous frappe, vous dites finalement Dieu me fait souffrir. Et ça peut être la même chose, par exemple, si vous êtes marié, vous pensez être une sainte. En plus, il y a plein de personnes qui ont eu des apparitions de la Sainte Vierge qui vous ont dit que vous étiez une sainte, que vous étiez choisie par le bon Dieu, tout ça. Et puis patatras, vous faites un péché. Un péché bien saignant, n'est-ce pas? Bien saignant. Ça c'est une chute, ça fait mal à votre humilité, n'est-ce pas? Ça fait mal, bien saignant, il faut que ce soit bien saignant. Oh là là, vous avez honte, même vous ne pourriez pas les confesser, vos confesseurs pensent que vous êtes une sainte. Vous n'avez quand même pas avoué ça, c'est pas possible. C'est trop... Comprenez ? Non, faut quand même que... Bon. Alors, vous voyez, alors vous avez un piège. C'est que vous avez envie de prendre la tangente, de fuir, n'est-ce pas ? Et en même temps, quand vous retournez vers Dieu, vous dites, ben vraiment, Seigneur, tu m'as laissé tomber. C'est toi qui as péché, mais c'est Dieu qui t'a... Et on le reproche au bon Dieu, ça. On le reproche au bon Dieu. Le bon Dieu me fait souffrir, quoi. Vous voyez, dans les différentes étapes du travail de deuil, on n'a pas le même... Quand on se tourne vers Dieu, on n'a pas la même impression spirituelle. Au fond, le bon Dieu me fait souffrir, quoi. Tu me fais souffrir. Tu m'as laissé tomber, j'ai pas été assez fort. Je sais pas. Je pensais être complètement préservé par rapport à ça, et pas du tout, tu vois. Au fond, bon Dieu me fait souffrir. Et si vous avez ce visage de Dieu, que Dieu finalement, ben, c'est quelqu'un qui fait souffrir, quoi. Qui fait souffrir. Et puis, avec tout le christianisme qui est derrière, ah oui, il fait souffrir parce qu'il faut qu'on souffre. Il faut qu'on souffre pour être un saint, etc. Il faut qu'on souffre pour... Et au fond, Dieu, c'est lui qui engendre la souffrance. Alors, vous voyez, si vous êtes là, ça veut dire que vous êtes vraiment à la première étape. Vous n'avez pas beaucoup avancé. C'est un gros travail de deuil. Dieu ne fait pas souffrir, évidemment. Dieu ne fait pas souffrir. Je pense que vous êtes au courant. Voilà. Voilà. Alors, si vous voulez aider quelqu'un qui est dans une étape comme ça, il faut, et c'est la dernière colonne, il faut avoir la gentillesse et la délicatesse d'essayer d'avoir vis-à-vis de lui une espèce de présence, de protection, de sécuriser, de faire qu'il reste là, qu'il ne s'enfuit pas, de lui dire courage. N'aie pas peur, voyez. Et pareil, donc, pour la deuxième. Du coup, vous rentrez peu à peu. Vous rentrez peu à peu dans la deuxième étape du travail de deuil, qui est la protestation. Une fois que vous avez dit « Non, c'est pas possible que ce soit moi », vous réalisez que c'est vrai, votre enfant est mort, il a été assassiné. Vous n'auriez jamais pensé une chose pareille, évidemment. On ne peut pas imaginer un truc pareil, que son enfant soit assassiné. C'est comme cette mère de famille, là, elle a son mari, ses deux enfants qui sont morts dans la grotte, franchement. Le matin, elle était heureuse comme tout, elle était heureuse comme tout. C'est pas sûr, vous remarquez, mais enfin, aujourd'hui, elle pense qu'elle était heureuse comme tout le matin. Le matin, elle était malheureuse, évidemment, mais maintenant, aujourd'hui, bon, c'est pas ça. C'est pas possible, c'est pas possible. Mes deux gosses et mon mari. Ouais, c'est la première réaction. Puis la deuxième réaction, c'est d'accepter. C'est de constater que c'est vrai. Je reçois le fait tel qu'il est. Et finalement, et du coup, ça engendre pour moi, puisque je vois que c'est vrai, je sais que c'est vrai, c'est pas un rêve, c'est pas un cauchemar. Ça engendre immédiatement du sentiment de peur, je passe au sentiment de révolte. Et j'ai un sentiment d'agressivité et de colère et de révolte. Alors, si on joue, donc, le sentiment de révolte, de colère et d'agressivité domine, dites-vous bien, que c'est parce que il y a fondamentalement quelque chose en nous qui n'a pas dépassé le point de vue donc de la protestation. Ça veut dire qu'on est resté au niveau du sentiment de culpabilité. Et au fond, à ce moment-là, vous voyez comment maintenant il faut lire le tableau. Et le danger, c'est de dire, allez, il faut se couper du bon Dieu, parce que sinon, le sentiment de révolte, c'est on a envie de se couper de Dieu, quoi, d'arrêter tout, quoi, de tout arrêter. Je prends le frein en main, et puis hop, je ferme toutes les portières, et je reste là, demeuré à la maison, je me coupe. Allez hop, je m'enterre comme la taupe, n'est-ce pas, c'est ça. Et c'est le sentiment d'agressivité qui fait comme ça. On arrête tout, on se coupe, hein. Et le visage, au fond, de Dieu dit, bah oui, on ne veut pas aller plus loin que le bon Dieu, parce que plus j'avance avec Dieu, plus je suis agressé. On est voilà. Alors on a un visage de Dieu qui agresse. C'est pas tout à fait la même chose que le visage de Dieu qui punit, remarquez le bien. Voilà. Voilà. Alors donc, vous vous rappelez, donc, ici, la dernière colonne, je ne reviens pas dessus, c'est quand vous avez affaire à quelqu'un, que vous vivez à quelqu'un comme ça. Bon, eh bien, il faut le laisser parler. Il faut lui donner la permission, s'il vous plaît, de s'exprimer et d'exprimer cette agressivité profonde, cette colère, cette révolte. Il ne faut pas lui dire « ta gueule, tais-toi, c'est pas vrai ». Il faut le laisser dire. Il y a droit. Il a le droit de dire « c'est vraiment, c'est injuste ». Il a le droit. Il ne faut pas le juger. Et en même temps, il faut prier pour lui, pour qu'il se convertisse. Mais il faut le laisser parler. Et il faut, j'allais dire, prier pour qu'il puisse retrouver en Dieu une consolation. Et qu'il puisse retrouver en Dieu, c'est un vrai Dieu. Quelque part, c'est un exorcisme qui s'est fait à travers lui. Parce que le visage d'un Dieu agresseur, c'est un visage que tous les hommes ont, quelque part. Dieu, c'est tout puissant, agresseur, punisseur. On a tous un peu ça comme schéma mental, instinctivement. Et il faut absolument que ce visage de Dieu sorte de nous, parce que ça, c'est pas Dieu. Parce que Dieu n'est pas comme ça. Donc il faut, et c'est à travers des événements comme ça, que grâce à ça, notre idée de Dieu sort de nous. Et du coup, on le connaît mieux. Parce qu'on ne le connaît pas à travers un visage déformé, qui est faux, mais on le voit à travers un visage plus juste. C'est un Dieu proche. Et enfin, en tout cas, c'est un Dieu qui nous demande de durer et de persévérer. Donc, la troisième étape, La troisième étape, eh ben, au bout d'un certain temps, une fois qu'on a repris la prière, une fois qu'on a accepté de dire au Seigneur, tu m'as donné ce coup, je te le donne aussi, je me suis bien révolté. Je comprends que Jésus, c'est lui qui prend mes coups à moi, n'est-ce pas ? Parce que si je me révolte, il faut bien qu'il y ait une tête de Turc. En réalité, c'est Jésus, évidemment. Et Jésus, je lui fais très mal, bien entendu, hein, à travers mes résistances, mes tout ça, mon agressivité, le fait que je suis puni, donc je vais le punir. Et je me mets devant le cœur de Jésus. Et le cœur de Jésus, je m'aperçois qu'il est broyé. Et je comprends que Jésus, avec son cœur broyé, il dit, bon ben d'accord, tu estimes que Dieu, c'est de sa faute, si t'es arrivé ça, eh ben c'est entendu, j'accepte la punition. Et toutes les punitions, c'est moi qui les reçois. Le cœur de Jésus broyé à cause de nos péchés. Et on comprend à ce moment-là, à travers le cœur de Jésus, que Dieu n'est pas un Dieu qui agresse. Voilà. Alors, il faut à ce moment-là accepter, et c'est la troisième étape, de rentrer dans l'étape du lâcher-prise, avec tout ce que nous avons déjà dit donc cette année à ce propos. Donc, le lâcher-prise, c'est dire, bon, bah finalement, je ne voulais pas, mais finalement, j'accepte. C'est bien moi, c'est donc vrai, c'est bien moi. À qui ça arrive, une chose pareille? Voilà. Alors, lorsque le mal nous frappe et qu'on le laisse aller jusqu'au bout, eh bien, ça provoque un sentiment de tristesse. Alors, quand on est, grosso modo, pour les blessures les plus profondes, parce que vous savez bien, c'est un grand principe que je vous ai expliqué, c'est que dans notre vie, au niveau de l'âme, donc de notre vécu intérieur, ce qu'on ressent, et au niveau spirituel, c'est-à-dire notre manière de contempler Dieu, et nous unir à lui, à ces deux niveaux, de l'âme et de l'esprit en nous. S'il y a un problème que vous n'avez pas réglé, quand vous aviez par exemple 4 ans, vous êtes une petite fille ou un petit garçon, ou vous aviez 8 ans, c'est pas réglé, eh bien, vous allez avoir, et vous voyez, vous avez refusé, vous voyez bien, le bon Dieu, à travers ça, de demander pardon, de vous confesser, de vous convertir, de changer de vie. Vous êtes une révolte contre Dieu, mais vous êtes resté à cette révolte. Mais vous avez oublié pourquoi. Alors, à l'âge de 15 ans, à un nouvel événement, eh bien, vous avez passé la première étape et vous allez rester à la deuxième étape et vous n'allez pas passer à la troisième, la quatrième, la cinquième dans le travail de Dieu. Vous allez rester toujours à cette deuxième étape de révolte. Et ceci jusqu'à ce que, quand vous aurez 50 ans, 65 ans, à un nouvel événement, un petit peu problématique, vous disiez pour cet événement-là, allez, je me convertis, je lâche prise. C'est ce qu'on appelle les événements analogiques, n'est-ce pas? Vous vous rappelez ce qu'on avait expliqué à ce sujet-là? C'est compliqué ce que je vous dis ou pas? Si vous m'arrêtez, si vous ne comprenez pas, vous connaissez la règle. Bon, alors, tout de suite après la colère et la révolte, c'est la tristesse. Donc quelqu'un apprend qu'il a un cancer, qu'il n'en a plus que pour un mois de vivre. Ah non, bah non, c'est pas possible. Quoi, moi, déjà à 58 ans, alors que je suis en pleine jeunesse. Non, c'est pas possible. Et puis après, vous avez la révolte. Et puis après, il y a quelqu'un qui est à côté de vous et qui vous dit, mais non, qui a accepté que vous parliez. Alors à ce moment-là, vous rentrez dans une espèce de grande tristesse. Vous êtes triste. C'est vrai. Voilà, ça correspond à la peur de perdre. Et en même temps, le visage de Dieu que vous avez, il est facile à repérer, celui-là. C'est un petit peu le passage à la vie adulte aussi. Hein. Dans le passage à la vie adulte, on a ce même problème. L'épreuve, la troisième épreuve de la vie, vous avez l'épreuve de l'enfance, vous avez l'épreuve de l'adolescence, et vous avez l'épreuve de l'âge adulte, qui sont là à travers ces trois-là. Hein. L'épreuve de l'âge adulte, c'est de savoir... on se dit, ben, il faut que je m'engage, quoi. Alors, je vais m'engager dans le mariage, je vais m'engager dans la consécration à Dieu, je vais m'engager, je m'engage, quoi. que je donne ma vie. Mais pour donner sa vie, c'est pas comme certaines personnes que je connais, comme disait Père Jean, n'est-ce pas, de Montmorin, dit je connais certaines personnes. Et je les connais. Et je ne dirai pas c'est, qui c'est. Qui disent qu'ils s'engagent. Mais ils s'engagent à condition que ce soit bien l'autre qui s'engage. Alors par exemple, je m'engage dans le. Supposons par exemple le mariage. Mais c'est à condition que l'autre donne 50%. Donc, je ne donne pas tout. Donc, je ne m'engage pas. Donc, je ne suis pas adulte. Ce n'est pas 50%. Quand on se donne totalement. Et par rapport à Dieu, c'est une étape extraordinaire, parce qu'il m'est arrivé une bigne. Et on dit, mais... Bon, je veux bien donner tout en bloc, hein, comme la dos. Ouais, ouais, je donne tout au Seigneur. Et puis, un an après... Je reprends tout au détail. Vous voyez ? C'est extraordinaire, ça. C'est Père Emmanuel qui disait ça. Et il disait ça aussi dans les sermons de mariage, d'ailleurs. Dans les sermons de mariage, je me rappelle, il disait « Ne soyez pas comme certaines personnes qui, bêtement, il faut bien le dire. Bon, on dit, ben voilà, je te donne tout, ma chérie. Ben oui, je te donne tout. En gros. Bon, sous-entendu, je prends tout au détail. Après, 10 ans après, ils ont tout pris au détail. Non, on donne toujours la même chose, ça c'est l'adulte. Alors, et le visage de Dieu, à un moment aussi, vous voyez, on se dit, que ce soit d'ailleurs pour avant de s'engager au mariage ou à quoi que ce soit d'ailleurs, si on n'a pas passé cette étape, je crois que notre engagement est foutu. Enfin, ce sera l'enfer, quoi. Il y a ce visage de Dieu quelque part, mais qui est très enraciné dans quelque chose d'antérieur, dans l'enfance, dans l'adolescence. Parce qu'il y a un mouvement qu'on n'a pas fait, une conversion qu'on n'a pas réalisée. Parce qu'on se dit, mais au fond, Dieu, tu lui donnes ça, il prend ça. Il pense que je lui donne ça, il prend ça. Non, pas ça, plus, il prend tout. Et on se dit, mais bon Dieu, il prend tout. J'ai pas envie que Dieu prenne tout, je vais en garder un peu. Hein? C'est assez 25 ans, là. Je sais pas ceux qui ont 25 ans, c'est un peu ça. On se dit, vraiment, on a les boules, parce que si quand même, Dieu, il prend tout. Je veux pas tout donner, je veux avoir quand même quelques petites satisfactions, quelques petites compensations. Dieu qui prend tout. On a l'impression que Dieu, il veut tout prendre. Ce qui n'est pas vrai. Dieu veut pas tout prendre. Dieu, c'est pas comme ça, Dieu. Mais on a quand même plein de visages de Dieu qui sont faux, quoi. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Dieu qui veut tout prendre, une espèce de voleur, quoi. Il se transforme en mendiant, mais en réalité, c'est un voleur. C'est extraordinaire, ça. Voilà. Alors, la quatrième étape, c'est que, une fois que j'ai accepté, que j'ai voulu lâcher prise, j'ai accepté de lâcher prise, je dis bon, ça va. Alors, il y a l'étape du marchandage. Vous voyez, je connaissais par exemple une amie qui avait 24-25 ans, qui faisait partie de mes fraternités à Paris, hein, groupe de prière, Guylaine s'appelait, attrapé un cancer, c'est terrible. Alors, chimiothérapie, vous imaginez comme c'était horrible. Elle était chauve et tout ça, mais c'était sympa. On la veillait jour et nuit. On était des trentaines comme ça, à se relayer. On était toujours au moins 4 ou 5, jour et nuit. Ça a duré pendant 6-7 mois, ça, jusqu'à ce qu'elle meure. Mais après cette étape, je me rappelle très bien, de la tristesse, il y a eu le marchandage. Le marchandage, c'est quoi? Ah ben voilà, on va prier, il faut avoir la foi, le Seigneur va te guérir, le Seigneur va peut-être me guérir, etc., etc. C'est, je dis, ok, je lâche prise, j'ai le cancer, je vais à la mort, mais peut-être le Seigneur va me guérir. Et je rentre dans une espèce de balance de marchandage. Vous voyez ça? Bon, mais je ne vais pas revenir dessus parce que c'est des choses qu'on a déjà vues. Mais simplement, comme je ne vous avais pas donné le tableau, je voulais vous apprendre à le lire ou à le relire. Alors, vous rentrez du coup dans des états d'exaltation mystique. Les infirmiers savent très bien ça. Les infirmières aussi. C'est la fameuse période du champagne, vous savez. Juste avant la mort, il y a une période d'exaltation. C'est presque mystique, mais en fait, derrière, il y a évidemment une angoisse profonde. Voilà. Alors, on croit que Dieu, c'est celui qui va nous guérir, que c'est celui qui va nous retirer toutes sortes de mal sur cette terre, qui va nous retirer comme ça, miraculeusement, toutes sortes de qui va supprimer la liberté du mal, tout ça, ou les conséquences du mal. La toute-puissance de Dieu change de direction à ce moment-là. Voyons, on se dit, mais voilà, Dieu va tout changer, Dieu va intervenir, Dieu va me guérir, j'aurai plus le cancer, j'aurai plus... Voilà. Bon, mais dans tous les cas, vous savez bien qu'il faut avoir à chaque fois, quand on accompagne quand on est avec des gens qui sont tristes comme ça, ou alors qui sont rentrés dans la fameuse exaltation, c'est-à-dire cette angoisse profonde, mais qui s'expriment positivement, il faut quand même respecter, hein. À chaque fois vous connaissez le principe, hein, c'est qu'il faut laisser les personnes qui sont là dans une détresse comme ça profonde parler, exprimer leurs choses, aller jusqu'au bout de ce sentiment et puis en même temps prier pour eux et leur obtenir des grâces actuelles pour qu'ils ne soient pas brisés dans cette évolution, dans cette guérison et qu'ils puissent rentrer au fond dans une passer de l'espoir à l'espérance. Parce que l'espoir, placer son espoir dans la toute-puissance de Dieu alors qu'on est dans quelque chose qui correspond à des lois naturelles quelque part, c'est pas juste. Hein. Donc il faut passer de l'espoir à l'espérance, hein, et à la pauvreté. Alors effectivement, après on se voit pauvre, on sait que le bon Dieu c'est pas exactement ça qu'il veut, alors on rentre dans la fameuse déprime. Et vous avez le fameux sentiment de découragement. Il y a des gens qui sont toujours découragés. Il y a des gens qui sont toujours découragés, voyez. Oui, c'est, vous avez un certain... même peut-être, et c'est possible que dans notre vie, il y ait des phases comme ça. On a obtenu une certaine guérison, alors, avant cette guérison, on était toujours en état de révolte et d'agressivité, toujours. Et puis après cette guérison, bah, au bout d'un certain temps, il y a une nouvelle phase qui vient, il y a une phase transitoire ordinairement, et puis, à partir de ce moment-là, ben, on est toujours découragé. C'est curieux. Toujours, il y a des gens qui sont comme ça, toujours découragés. Non, pas toi. Toi, ça va, toi. Voilà. Alors, c'est là d'ailleurs qu'on a les vocations de suicide. Et rappelez-vous bien que quand vous étiez petit enfant, que vous aviez, je ne sais pas, 9-10 ans, vous avez peut-être eu une période comme ça. C'est rare d'ailleurs, les petits-enfants qui n'ont pas eu une petite période de tentation de suicide. Pas sérieux, évidemment. Mais une pensée, en disant « Oh, j'en ai marre, la vie ça vaut pas la peine, et on a envie, on dit « Moi j'ai envie ». Et on le dit d'ailleurs à sa mère, on dit « Moi j'ai envie de me suicider, je veux mourir ». Il y a une étape comme ça, oui. C'est le fameux découragement. Bon, alors là, bon, évidemment, il faut aider ce petit garçon à dire merci Seigneur, hein, évidemment. Il faut apprendre la louange à ce moment-là, hein, c'est sûr. Bon, accepter de rentrer dans l'oraison d'abandon. Voilà, la sixième étape, c'est que si j'ai accepté de rentrer dans l'espérance, il est évident qu'apparaît très profondément. Très profondément, mais au centre de nous-mêmes, un premier sentiment qui devient spirituel cette fois-ci, et qui est une espèce de joie profonde, qui ne supprime pas évidemment la détresse ou la souffrance en question, mais il y a une paix profonde, une joie profonde, qui s'est installée au centre de tout ça. Et on l'éprouve très bien, ça. cette étape de l'acceptation et du consentement. Où je commence à comprendre que je ne suis pas un vilain petit canard, mais que à travers ça, je découvre une vocation, une identité nouvelle. N'est-ce pas? À ce moment-là, mon cœur se réchauffe d'un seul coup. Je suis à nouveau relié à la source. Et du coup, je peux m'offrir et je peux faire mon oblature, n'est-ce pas? Parce que vous savez que ceux qui font leur oblature, à la communauté Saint-Jean par exemple, c'est ceux qui ont passé cette étape. S'ils ne sont pas d'abord dans la joie parfaite, non, impossible de faire son oblature. Parce qu'on ne peut pas s'offrir. Parce que si on n'est pas passé, si on n'a pas résolu ces émotions-là, c'est-à-dire si on a encore un visage de Dieu faux, eh bien on ne peut pas s'offrir à un Dieu qu'on ne connaît pas. Puisqu'on voit un faux visage, à ce moment-là on s'offrirait à un faux visage de Dieu. Il faut s'offrir au vrai visage de Dieu, d'une part, et il faut s'offrir joyeusement au bon Dieu, d'autre part. Et enfin, troisièmement, il faut le faire vraiment. Voilà. Et alors c'est le moment où du coup on s'offre. Et le jour où on s'offre, ça y est, on rentre, on devient un véritable être humain. Le jour où on s'offre complètement, où on a non seulement lâché prise, mais non seulement on n'a pas fait de marchandage, non seulement on est sorti de tout espoir humain, mais on est rentré dans l'espérance. Et du coup, on peut s'offrir joyeusement. Et on a fait tout le travail de deuil. Bon. Alors, vous vous rappellerez donc, si vous voyez que vous avez tel ou tel visage de Dieu en vous. Attention, ça c'est dans les moments où vous allez mal. Quand vous dites, de toute façon, bon Dieu, j'en ai marre parce que bon Dieu me demande trop. Alors, vous regarderez et dites, tiens, Dieu me demande trop. Ah ben, c'est Dieu qui prend tout. Vous voyez, il y a un lâcher prise, il y a quelque chose, je n'ai pas lâché quelque chose. Ah ben Dieu, ouais, ouais, il me fait souffrir, Dieu il me fait souffrir. Ouais, finalement Dieu il me fait toujours souffrir. Ah, attention, où est-ce que c'est? Ah, c'est le premier, c'est la dénégation. Hein? Rappelez-vous toujours ça. Et à chaque fois, d'ailleurs vous voyez bien dans le monde quand vous parlez aux gens, etc., ouais, moi j'y crois à Dieu, mais enfin bon, Dieu il nous punit et tout, et puis Dieu, tu vas voir, attends un peu, le sida c'est ça, c'est Dieu qui châtie, hein, c'est Dieu qui punit, puis c'est tout, c'est Dieu qui fait, alors ah, vous voyez, où est-ce qu'on en est, ces gens qui sont dans l'agressivité, tout ça. Donc il est commode ce tableau, parce que ça va, bon, je n'ai pas à revenir dessus parce que j'ai pas envie d'insister, hein, mais enfin, comme on l'avait déjà vu en détail, surtout pour les aspects pratiques de la question, je voudrais donc passer à autre chose, mais gardez-le, le tableau en question, parce qu'on y reviendra demain, puisque quand on va parler de la gestion des émotions, c'est pour ça qu'il fallait absolument y revenir, les fameuses émotions psycho-spirituelles, qui ne sont pas seulement des émotions psychiques, qui ne sont pas seulement des émotions psychologiques, si vous voulez. Ce sont des émotions psycho-spirituelles parce que ce sont des émotions qui sont profondes, qui s'enracinent profondément en nous, qui remontent très profondément en nous et en vertu de notre relation avec Dieu. Donc, il y a quelque chose qui s'est tordu dans notre relation avec Dieu en raison du fait qu'on a une complicité quelque part. Pécamineuse, c'est-à-dire on a vraiment fait une faute à l'occasion avant, pendant ou après la maladie, l'échec ou la trahison ou la mort qui nous est tombée dessus. N'est-ce pas? Et c'est à cause de ce fait qu'il y a un aspect spirituel et en même temps un aspect psychique, psychologique, qu'il y a ces grandes émotions qui montent en nous. Donc quand on va parler de la gestion des émotions, on va parler de la manière de gérer ses émotions. Comment gérer ses émotions? Et c'est important quand même, vous l'avouerez. Et c'est important parce que il faut quand même qu'on passe à un moment de la prière simple
à la prière chrétienne. Parce que la prière chrétienne, c'est de rentrer dans l'union transformante. Et on rentre dans l'union transformante à partir du moment où on a lâché prise. Et où on s'est offert. Sinon, on ne peut pas vivre humainement sur cette terre. On sera soumis aux émotions. Et c'est les émotions qui vont nous guider. Et les choix qu'on va prendre sont en fonction de nos émotions. Donc ce sera ni moi, ni ma liberté, ni Dieu, ni celui que j'aime. Charmant. Parce que les émotions, vous savez, c'est accidentel. Hein? Évidemment. Voilà. Alors. Donc vous comprenez que il n'y a pas pour gérer ces émotions, comme vous avez senti toute l'année, c'est un PPP 3, qu'il n'y a pas de recette miracle pour guérir, pour faire qu'il n'y ait plus ces émotions en nous. Simplement, la grande chose, c'est qu'il faut accepter de venir à Jésus et de comprendre que Jésus porte ma croix. Il faut venir à lui, Jésus porte ma croix. Et de cette manière-là, toutes ces émotions, j'allais dire, éclatent dans une nouvelle spiritualité, dans une nouvelle motion, qui n'est plus d'ailleurs une émotion, et qui est une motion, c'est-à-dire un mouvement intérieur qui devient théologal. C'est-à-dire, on peut commencer à faire des actes de foi, d'espérance et d'amour surnaturel. Donc comment est-ce qu'il va falloir gérer notre croix dans notre relation au quotidien, au fur et à mesure de la confrontation avec les événements, puisque chaque événement auquel je vais être affronté, un nouvel échec, une nouvelle impasse, une nouvelle chute, un nouveau mensonge, va faire rejaillir une émotion précisément que je n'ai pas su gérer jusqu'à maintenant, depuis 30 ans par exemple, depuis l'âge de 6 ou 7 ans. Et donc je vais me bloquer et me rester au stade où j'en étais resté parce que je n'avais pas voulu aller plus loin quand j'avais 6 ans. Et que le bon Dieu me donnait pourtant des grâces très très fortes à l'âge de 6-7 ans pour dire oui. Alors comment est-ce que je vais faire? Donc il faut remarquer pour commencer que ça fait partie de ce qu'on appelle le combat spirituel. Donc les grandes règles du combat spirituel, c'est ce que je voudrais avec vous regarder ici. Les grandes règles du combat spirituel, premièrement, dans le combat spirituel, les grands principes pour ne pas perdre de temps, pas se tromper. Premièrement, il ne faut pas confondre le combat contre les pensées et le combat, la lutte, pour la gestion des émotions. C'est pas la même chose. Le combat contre les pensées, vous savez, les pensées, vous savez ce que c'est les pensées, c'est d'un seul coup, ça y a quelque chose qui rentre dans votre imaginaire, dans, vous avez un fantasme qui vient, et vous avez une tentation qui vous frappe, qui pénètre en vous. Elle a pu pénétrer par un film à la télé, hein. Aujourd'hui, c'est plutôt ça, hein. C'est ça. Bon, ça rentre de l'extérieur en vous, ça produit un fantasme dans votre imaginaire. L'imaginaire est extérieur à votre âme qui est au centre de vous. L'imaginaire est à l'extérieur, quelque part, de votre psychisme qui se trouve sa source dans votre âme qui est au centre de vous. Est à l'extérieur aussi de votre vie spirituelle, puisque votre esprit est à la pointe de votre âme, au plus intime de l'intime. Et l'image ne vient pas de Dieu non plus, puisque Dieu est au centre, à l'image et ressemblance de la pointe de votre âme spirituelle, et il est en deçà comme la portant. Donc ça, c'est les pensées, ordinairement, nous viennent de l'extérieur. Tandis que les émotions, elles nous viennent d'une rupture qui s'est faite entre la très grande profondeur d'amour et de sens d'amour qui est au centre de notre âme dans son lien avec le corps et Dieu. Donc ça vient de l'intérieur.
et ça monte de nous, une émotion. Tandis que les pensées, ça vient de l'extérieur. Donc, c'est très important. J'espère que vous voyez la différence au niveau du combat contre les tentations, la différence très importante dans le combat spirituel entre la pensée et l'émotion. Ça, c'est capital. Hein. C'est capital, et pourtant, je vous affirme qu'il n'y a pas 95% des cathos qui comprennent ça. Et du coup, ils confondent. Ça les arrange bien de confondre, parce que cela permet de rester au stade, par exemple, de l'agressivité, d'y demeurer. Après tout, ils sont habitués, alors. Ils y sont bien. Hein? Alors, au niveau des pensées, la première chose, c'est que vous avez trois types de pensées. Les pensées spirituelles, les pensées psychiques et les pensées charnelles. Au niveau des pensées, donc les pensées spi, n'est-ce pas ? Spirit, UL, les pensées psychiques et les pensées charnelles. Donc le grand principe à reconnaître, je vais aller assez vite parce que sinon on n'aura jamais terminé. Si vous êtes dans la prière, principe de Saint Séraphine de Sarras, si vous êtes dans la prière, que vous êtes un acte d'adoration, je suis en ce moment, j'existe, je suis suspendu à l'acte créateur de Dieu, et je donne toute ma vie, je suis une sainte, pendant 3 secondes. C'est facile de tout donner en bloc pendant 3 secondes. De toute façon, tu peux prendre au détail après, donc ce n'est pas un problème. Donc, adorer pendant 3 secondes, très facile. Pas? Donc, tu fais une prière, tu pries, tu fais horizon, tu fais glouti comme ça, là, dans les bras, le sein de ton Père, donateur de. Et tu rejoins ta présence d'ailleurs en plus à l'occasion au centre de ton âme, qui vivifie, qui illumine, dégouline, qui fait habiter partout où il habite. Alors une simplicité absolue et une perfection surabondante. Tu rentres donc dans la prière. Eh bien, si tu es dans la prière, à partir du moment où tu t'es mis dans la prière, la première pensée qui jaillit vient de Dieu. C'est un principe qui fait frapper tout ça. Parce que quelquefois on vous dit, quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quelle est cette intuition, est-ce qu'elle est juste, hein? Mais si tu es dans un acte d'adoration, tu te donnes entièrement, et puis d'un seul coup tu as une pensée, oh, il faut que tu ailles voir ta mère, qui est malade. Là. Si vous êtes dans la prière, cette pensée-là vient de Dieu, la première pensée vient de Dieu. Puis après vous dites, oh, non, ça, ta mère est malade, non, c'est pas, oui, ce serait beaucoup mieux de lui écrire, hein, puisque je dois aller chez Madame Ossil pour lui apporter du chocolat. La deuxième pensée, donc sur le plan spirituel, vous comprenez, vous voyez la différence, donc c'est ce grand principe. Ça, c'est les petits principes de Saint Ignace de Loyola qui sont classiques, hein, et qui sont importants à connaître, mais qui ne sont pas de Saint Ignace de Loyola seulement. C'est la très grande tradition de toutes les églises apostoliques orthodoxes comme. Deuxièmement, les pensées psychiques. Les pensées psychiques sont les pensées qui s'impriment dans mon imagination. Par exemple, quand je réfléchis. Je réfléchis, je pense, je dis, ah, il faut quand même que j'approfondisse mon histoire, que je vois le pour, le contre, que j'essaie de comprendre mon problème, que j'essaie de comprendre le problème politique, je cherche à créer quelque chose, j'essaie de regarder mes opinions, etc., etc. Tout ça, ça s'inscrit dans un psychisme. Mais je vous rappelle que le psychisme en question, il est blessé par les séquelles du péché originel. Hein. Il n'est pas tout pur. Mon psychisme n'est pas entièrement informé par la vie spirituelle. Si je veux retrouver la nature normale de mon psychisme, il faut que je fasse un acte d'adoration très puissant. Mais dans l'état normal, si je réfléchis, etc., les pensées qui vont s'expriment s'exprimer dans mon psychisme, ordinairement, ne viennent pas, à cause de ce que du péché originel, ne viennent pas du Saint-Esprit. Mais, ils peuvent venir, disons, c'est possible que ça vienne de moi. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais en tout cas, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ça peut venir de moi et ça peut être très bien. Ça peut venir d'ailleurs du philosophe qui est en moi. Ça va? Quand c'est des pensées charnelles, Alors, les pensées charnelles, elles ne viennent ni de l'homme, ni de Dieu. Mais ça vient donc du cœur.
C'est la question de la tentation. C'est évidemment facile à reconnaître. Si vous êtes dans un état, vous savez, le fameux état de la serpillière, la bouse de vache, j'en ai marre, je suis dans un sentiment, dans une émotion, c'est ou bien, je l'aime, ou bien alors, j'en ai marre, oh, je suis malheureux, oh, je suis pas mécontent, ça revient exactement même, vous voyez, c'est même temps d'ailleurs.
Oh, c'est dramatique.
Oh, c'est enthousiasmant.
Tout ça, c'est charnel. Alors, à ce moment-là, toute pensée qui vous vient, qui surgit immédiatement à partir de là, vient du démon.
Alors, du coup, vous dites, tiens, cette pensée-là, vous réfléchissez, la deuxième pensée vient de vous, vous adorez, et la première pensée qui vous vient, vient de Dieu. Ça va? C'est très simple.
J'espère que c'est simple. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose de plus simple pour le combat spirituel au niveau des pensées. Rien n'est plus simple. Et donc si c'est au niveau des pensées, une pensée charnelle qui vous vient, il faut la chasser.
Et le meilleur moyen de la chasser d'ailleurs, c'est de rentrer dans l'adoration.
Enfin, il faut le chasser, vous savez très bien que si vous avez un mauvais fantasme, vous avez envie d'égorger votre petite sœur. Elle vous est toujours passée devant, et ça fait 40 ans que ça dure. Et puis en plus, elle veut vous dépouiller à l'occasion de l'héritage. Non, vraiment, j'ai envie de dégorger. J'ai envie de rentrer là-dedans, poser plusieurs grenades. Dès que vous avez des pensées, il faut les chasser. Vous savez bien, c'est ça la lutte qu'on va. Si c'est des pensées impures, n'en parlons pas. Voilà, n'oubliez pas, bon, il y a plusieurs règles, mais on les verra.
La lutte contre les émotions. Ah, la lutte contre les émotions, la gestion des émotions, c'est tout à fait différent. Et pour cause, puisque ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. À ce moment-là, si vous ne pouvez pas dire, j'enlève ça, vous comprenez ? Si vous dites, j'enlève ça, ça revient, ça vient de vous. Ça vient du centre. Ça vient pas de l'extérieur. Tu coupes l'extérieur, la pensée s'en va. Ça va? L'émotion, ça vient de toi. Ça vient de tes profondeurs d'amour. Au fond de toi, tu as été fabriqué par Dieu, par l'amour. Dieu t'a fabriqué comme source d'amour, comme soif d'amour, un corps d'amour, un corps spirituel de soif d'amour, un corps en creux d'amour, une coupe. Et c'est le creux de la coupe. Il ne faut pas regarder la coupe de l'extérieur, il faut regarder la coupe à l'intérieur de la coupe. Regarde à l'intérieur de la coupe, dit l'Écriture. Parce qu'il y a ceux qui regardent l'extérieur de la coupe, les pharisiens. Et on regardera ça. Le fameux. Et non, c'est de l'intérieur, tu as une soif d'amour, ton corps est là, Dieu est là, ta relation à Dieu est au fond de toi. Et justement, s'il y a quelque chose qui s'est brisé, il y a quelque chose qui remonte tout le temps de toi. Et donc, si les émotions qui s'en dégagent, tu essaies de les enlever, de les arracher, ça ne sert à rien. Ça reviendra, t'inquiète pas. Et même au galop. Donc, si tu essaies d'enlever ça, ça ne marche pas. Et c'est précisément ça, la très grande erreur du combat spirituel, de confondre la lutte contre les pensées, la lutte contre les émotions, n'est-ce pas ? La gestion des émotions. Donc, j'espère qu'à travers ça, vous saisissez l'importance de notre petit séjour à Cotillac. Ce que je voudrais avec vous regarder, c'est dans un premier temps, les principes généraux de la lutte contre les émotions. Et dans un deuxième temps, on regardera pour chaque émotion, comment gérer chacune d'entre elles. Donc vous voyez, c'est vraiment
c'est du grand art. Hein. On va faire du grand art. Et en même temps, c'est très utile. Et c'est pas du tout compliqué. Bon, donc pour les sentiments, il va y avoir plusieurs types de sentiments. Vous allez avoir des sentiments psychiques et des sentiments spirituels. Les émotions. Les sentiments, si vous préférez. Donc vous allez avoir des sentiments psychiques, des sentiments spirituels. Parmi les sentiments psychiques, vous allez avoir trois types de sentiments, d'émotions. Des sentiments d'ordre psychologique, c'est-à-dire psychologique, comprenez, ça veut dire que vous les ressentez très fort. Hein. Psychologique, ça veut dire que vous les ressentez très fort. Donc, psychologique, vous allez avoir des sentiments, c'est très facile à repérer, hein, des sentiments agréables, des sentiments désagréables, et puis des sentiments que je vais mettre entre pointillés, là, ici, disons des sentiments, c'est pas neutre, mais des sentiments un peu crucifiants, disons. Des sentiments qui sont normaux, finalement, mais enfin qui sont crucifiants quand même, mais qui ne sont pas positifs ou négatifs. Ils sont normaux, ils sont purifiants. Oui, parce que vous avez des sentiments désagréables. Les sentiments désagréables, notez-les s'il vous plaît. Les voici. Je vous les citer. C'est la peur, l'angoisse. Et on va regarder chacun d'entre eux. Hein. Pas tout de suite, mais plutôt demain. La douleur affective. La souffrance. Vous êtes dans un état de souffrance. Vous voyez, c'est facile à repérer quand, du centre de vous, il y a une souffrance qui monte. Vous souffrez. Une souffrance qui monte. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Hein. Quelqu'un qui est une espèce d'idiot. Non. C'est de l'intérieur. Il y a une souffrance, vous souffrez. Et puis vous dites, mais d'où ça vient ça? Vous voyez ces sentiments-là, c'est des choses qui montent du centre de vous. La culpabilité, la honte, bon, parmi ces sentiments désagréables, il y en a qui sont... Tout ça, c'est des sentiments donc désagréables, mais ils sont crucifiants et purifiants, et c'est normal. C'est normal. Ils sont là pour nous purifier et pour nous rappeler qu'il faut revenir à la source de l'amour pour se réconcilier avec notre identité, soif d'amour, qu'on refuse quelque part. On refuse Dieu, que Dieu nous ait créé comme une soif d'amour et comme des saints. Et on le refuse. Et on ne veut pas réussir sa vie sur le plan de l'amour. On n'en veut pas. Donc on revient à cette source d'amour grâce à ces sentiments dont je vous parle, qui me rappellent à ma source. Hein. Mais il y a aussi des sentiments désagréables, pécamineux. Ou alors à ce moment-là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout parce que je suis pécheur et que c'est à cause de cette volonté de continuer séparé de Dieu que je vais avoir ces sentiments-là. Et lesquels sont-ils? C'est l'agressivité. Un sentiment profond de haine qui monte. La rancune. L'amertume. La convoitise. Et enfin, la jalousie. Un sentiment de jalousie qui monte très profondément de vous, vous savez, et puis qui vous ronge tout le temps. C'est comme c'est désagréable. Moi, je sais, ça m'est arrivé plusieurs fois. Il a fallu que je subisse ça pendant des années. Très désagréable. Très, très désagréable. Ça ronge, il n'y a rien de pire. Alors, c'est pécamineux, il y a une origine pécamineuse. Ou alors, agréable, eh ben, voilà. C'est amoureux, un sentiment amoureux, un sentiment de joie, un sentiment de paix. Tout ça, ce sont des sentiments donc agréables que on aura, c'est pas la peine de regarder, puisque autant les conserver, ces sentiments. C'est pas la peine de lutter contre les sentiments agréables, ça. Parce qu'on n'est pas maso. Non, faut surtout enlever ces sentiments agréables. Non, pas du tout. Puisque justement, ils ont une connotation spirituelle, au contraire, et qui viennent, tous ces sentiments agréables viennent d'une adhésion profonde à notre vocation intime d'union à Dieu. Dès que vous avez un sentiment très profond de paix profonde, de joie extrêmement profonde, ça vient quelque part de quelque chose que vous avez fait peut-être fait il y a 20 ans, c'est possible, hein, mais d'une adhésion très très profonde à l'amour éternel et concret de Dieu. Bon, il va y avoir aussi des sentiments qui sont purement spirituels. Des sentiments qui sont purement spirituels, et donc qui ne viennent pas de l'humain en nous, mais qui viennent du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous avons vu dans les différents PPP, 1, 2 et 3. Il s'agit du repentir. On a un sentiment de repentir, de contrition, un sentiment de joie spirituelle, d'unité absolue, et vivifiant, qu'on appelle la paix spirituelle, qui persiste, ces sentiments-là, même quand on est dans la croix et dans la souffrance. Ça, c'est des sentiments profonds aussi. Il y a aussi la compassion, l'amour des ennemis. Un ennemi te précipite dessus, décide de t'arracher les oreilles, les cheveux et le nez. Puis après, il t'ouvre la bouche, hein, avec des crocs, et il t'arrache la langue, surtout si tu parles au moment où il ne faut pas. Alors, à ce moment-là... à ce moment-là, et en même temps un sentiment très profond monte de toi d'amour de l'ennemi. Ça, ça c'est un sentiment qui vient du Saint-Esprit, ça ne vient pas de l'homme. Voilà. Alors, vous comprenez bien que toutes ces émotions spirituelles donc naissent donc de la grande profondeur de notre âme où on est installé et uni à Dieu. Ils viennent de la chambre nuptiale, des noces sous l'agneau, où Dieu nous appelle à rester vigilants et à veiller comme le prophète sur le rempart de Jérusalem. Bon, on est donc d'accord. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quoi qu'il arrive, tous nos sentiments viennent de cette source très profonde qui est en nous. Et donc, la mobilisation d'une émotion et d'un sentiment intérieur, c'est une mobilisation qui n'est pas seulement périphérique. C'est une mobilisation intérieure très profonde, qui nous mobilise totalement. Et donc, ça crée une tension. C'est la différence avec les pensées. Aussi. Ça crée une tension. Une tension puisque toute émotion, quelle qu'elle soit, elle provient de l'amour. Et l'amour trouve sa source au centre de notre. Alors ça crée une très grande tension. Pourquoi ? Parce que l'amour nous met dans... L'amour, c'est quelque chose qui fait qu'on n'est pas uniquement avec nous-mêmes. L'amour fait qu'on est en relation avec l'autre, avec le tout autre. Et c'est nous, très profondément, dans notre source d'amour, qui sommes en relation avec celui que nous aimons. Lequel est lui-même déjà au fond de nous comme source de l'amour. Du coup, ça fait qu'à cause de ce phénomène relationnel, à cause du phénomène de l'amour, à cause aussi du lieu qui est source de l'émotion, ça fait une tension. Donc, ceux qui sont toujours tendus, ne vous inquiétez pas. C'est à cause de ça, quelque part. N'est-ce pas ? Je ne sais pas si c'est la question de la tension du sang, ça, je ne connais rien. Hein. Il faudrait que j'étudie plus sur une question, tiens, une baisse de tension, hausse de tension. Alors, à ce moment-là, c'est le dynamisme intérieur qui procède de l'amour nous met dans un état, j'allais dire, d'un élastique très tendu, un état émotionnel, à ce moment-là, apparaît. N'est-ce pas ? Et réciproquement. Donc l'homme, au fond, par exemple, eh ben, c'est un être qui est capable d'avoir des émotions profondes qui montent de lui de souffrance. Pourquoi ? Parce que c'est un être d'amour. Pourquoi est-ce qu'on a des émotions comme ça qui apparaissent très profondément et qui sont des émotions la jalousie parce que je suis un être d'amour. Et on s'aperçoit très bien que ces émotions, quand on les laisse simplement monter, que ce sont des émotions qui nous mettent dans un état de mobilisation. Fait qu'on réalise à ce moment-là qu'on est dans un état de mobilisation. On peut fuir ça, et puis rentrer dans nos pensées. Et c'est tout le problème, voyez, de combat spirituel. C'est qu'il va falloir peut-être accepter ces émotions pour les dépasser. D'une part, les dépasser, et d'autre part, aller à la source. Hein. S'en servir, j'allais dire, comme une voie d'accès. Vous connaissez dans le yoga, vous savez, la démarche spirituelle du yoga, c'est de monter. La montée des énergies. Mais le mouvement spirituel du combat spirituel, c'est la descente du Saint-Esprit. Il faut redescendre à travers cette espèce de canal lumineux d'une tension émotive d'amour, pour descendre jusqu'à sa racine, source d'amour, pour l'assumer en entier. Et venir réparer la petite plomberie en bas, n'est-ce pas ? Qui fait que ça fuit. C'est la lutte spirituelle, vous savez que le feu d'en haut, Esprit Saint, c'est comme ça. Il nous fait descendre. Ce que fait le Verbe de Dieu. Le Verbe de Dieu s'incarne en nous. Il est venu jusqu'à nous. Il descend en nous. L'Esprit Saint aussi descend. Tandis que dans le yoga, dès qu'il s'agit par exemple de la montée des énergies, vous le savez bien, c'est la montée. C'est le développement kundalinique. Pas du tout pareil. Si vous voulez vous éclater, c'est... Je m'éclate. La drogue, qu'est-ce qu'elle fait ? La drogue, elle provoque sur vous des phénomènes de métabolisme et d'excitations organo-végétatives qui font simplement qu'il y a un phénomène de montée. Puis c'est tout. Il vaut mieux pas à ce moment-là que vous preniez votre acide lorsque vous êtes dans un état d'angoisse. Vaut mieux pas. Tous les défoncés le savent. Comme ici, il n'y a aucun défoncé, ça va. Bon. Voilà. Donc, vous voyez, faire très attention à tout ça. Alors, il y a donc cette gestion. Oui, nous avons vu que dans la plupart des cas, ces émotions viennent d'un amour dévié. Donc. Il n'y a pas que des émotions spirituelles de joie, de paix, de profondeur amoureuse. Elles viennent donc d'un amour qui s'est dévié de sa source. Et donc, le problème de la gestion des émotions, ça va être non seulement de descendre, mais aussi de retrouver la bonne direction. Du point de vue de l'amour. Donc, rappelez-vous ça, hein. Donc, le grand principe, donc, c'est que à partir du moment où, à la source de l'amour, il y a une déviation, ou même il y a quelque chose, à ce moment-là, toute une mobilisation se fait, et une grande tension intérieure est entraînée par ça, et c'est cette tension intérieure qu'il faut apprendre à gérer correctement, de manière à l'orienter du côté de l'amour que nous voulons, nous, pas un amour qui s'est imposé à nous en raison d'échecs, ou en raison de blessures, ou en raison d'accident, mais que ce soit un amour que nous décidons, nous, que nous choisissons, nous, et que l'amour choisit lui-même, et que ce n'est pas en raison d'une... mais que c'est un amour substantiel, pas un amour qui va devenir accidentel, c'est pas un amour dégradé, ce sera un véritable amour, ce sera le nôtre, ce sera notre béatitude. Donc il faut arriver à rentrer donc, dans cette tension, de manière que, arrivant à la source de l'amour pour rétablir un choix nouveau, d'un amour nouveau, d'une vie nouvelle, dans un corps nouveau et dans un monde nouveau, ça fait pas mal de nouveau, bon, on puisse arriver à une décharge de cette tension intérieure. C'est ça, donc la fameuse guérison de la mémoire. Parce qu'une tension intérieure qui ne s'est pas rétablie, elle s'ajoute à une nouvelle tension. Puis il y a une nouvelle tension, puis c'est une nouvelle tension. Tandis qu'une guérison de la mémoire, tu es déchargé, et du coup c'est un épanouissement et une liberté, les deux ailes de l'aigle. Et c'est ça but. La psychologie, c'est pas seulement les curés, parce que les curés, bon, je sais pas si beaucoup de curés qui vous enseignent ça, mais enfin, les psychologues, qui restent uniquement au niveau psychologique, qui sont pas philosophes, et qui sont pas religieux non plus, et qui sont pas mystiques non plus. Bon. Les psychologues, eh ben, ils ont montré que l'émotion, elle monte en nous à partir du moment où il y a un besoin. Bon, alors, notez bien. L'émotion engendre une tension intérieure. Cette tension intérieure est appelée à rentrer dans un épanouissement après une nouvelle réorientation substantielle de l'amour et à se décharger. La décharge de la tension, c'est la guérison qui le fait. Mais la tension elle-même, elle vient d'où ? Elle vient d'un besoin. Un besoin profond, un besoin intérieur. Et qu'est-ce qui fait apparaître ce besoin ? Qu'est-ce qui réanime ce besoin ? Qu'est-ce qui réactive ce besoin ? Qu'est-ce qui réactualise ce besoin à chaque jour ou chaque mois ? Tiens, à nouveau. Eh bien, c'est les différents événements qui vous arrivent. Par exemple, un changement. Changement d'adresse, changement d'habit, changement de comportement de votre conjoint. Vous êtes habitué à votre conjoint. Vous êtes habitué à votre conjoint. Et puis d'un seul coup, votre conjoint change de comportement. Il se convertit, par exemple. Alors du coup, tous ces changements qui s'opèrent remettent à nu les besoins profonds d'amour qui sont en vous. Changement de situation, changement de vie professionnelle, changement donc ou alors un malheur, simplement, un nouveau malheur, un nouvel échec, une nouvelle trahison, ou alors une chute, une maladie. Vous attrapez la tuberculose. Ou bien, je sais pas, vous attrapez une maladie, vous perdez un œil. Ou alors un accident de voiture. Vous avez un accident de voiture et bon. Tous ces nouveaux changements vont faire apparaître, mettre à nouveau à nu les besoins profonds. Et ces besoins profonds, donc, touchent l'amour et montrent que ce sont en fait des besoins d'amour et vont faire réapparaître une nouvelle tension. Et donc, on va réactiver une émotion, ce sentiment, et l'émotion, celle qui n'a pas encore été résolue et qui attend depuis déjà des années. Vous voyez, normalement, il ne faut pas perdre une seule seconde, mais quelquefois, ça dure depuis 10 ans, 20 ans, quelquefois. Donc, ce besoin va se traduire donc par l'émergence d'un sentiment, c'est-à-dire d'une mise en tension. Ça, c'est le langage du psychologue. Mais c'est vrai sur le plan psychospirituel aussi. C'est parfaitement exact, ça. Donc, si je ne gère pas cette tension, cette émotion, cette tension donc va à un événement supplémentaire faire apparaître une nouvelle tension. Une tension, plus une nouvelle tension, plus une troisième tension, et vous êtes en surtension. Et c'est ce qu'on appelle une accumulation, n'est-ce pas, qui provoque ce que vous savez, n'est-ce pas, la fameuse déprime, toute une série de manifestations pathologiques. Donc je vais terminer sur cette série de manifestations pathologiques, il me reste 20 minutes pour ça. Et il faut absolument apprendre à repérer ces manifestations pathologiques avant. Je voudrais tellement terminer là-dessus, mon Dieu. J'espère que je vais y arriver. Mais vous allez voir que c'est quand même intéressant parce que ça, on est tous, personne n'échappe à ça, que personne ne dise, moi je ne suis pas touché par ça. Ça, c'est pas vrai. Il faut donc, voilà, regarder cette... classification des émotions pour regarder comment ça se passe en général. Il y a évidemment différents stades pour l'émotion. De toute façon, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre vie, c'est pour ça, remarquez bien que quelquefois, il y a des gens qui se terrent chez eux, qui se replient sur eux, de manière qu'il n'y ait rien de nouveau, n'est-ce pas ? Et parce que... Et vous comprenez pourquoi maintenant ? Vous commencez à comprendre pourquoi. Parce que une nouvelle rencontre, un nouveau sermon un peu fort, une grâce de Dieu, une apparition de la Sainte Vierge, ça fait apparaître à nouveau une nouvelle tension. Alors, du coup, on se replie sur soi. Et on ne veut pas profondément résoudre son problème. On veut rester dans le péché qui est à l'origine justement de cette tension dévastatrice. Si c'est une émotion désagréable, pécamineuse. La plupart, pour la plupart, ce sont des émotions désagréables, pécabineuses. Alors du coup, il y a différents stades.
Ah, les stades.
Ça, il faut que vous montriez que vous avez de la culture générale. Hein. Alors ça, c'est le truc classique. Hein. Stade. Les émotions s'expriment dans notre vie au stade 0, au stade 1 ou au stade 2. Ça, on n'est pas doué, on n'est pas très intello, mais ça on peut comprendre. C'est ça 0, 1, 2. Hein? C'est presque comme un ordinateur, c'est un truc binaire. Bon, alors. Alors, stade 0, moi, des émotions comme ça? Jamais. Jamais. Des peurs, ça? Une peur profonde? Mais non. Oui, c'est vrai, parce que je vois un serpent. Oh, j'ai peur. Ah oui, ça m'arrive. Mon copain, je sors en boîte. Il me pique ma fiancée, il lui roule un palo. Je lui casse la gueule. Ça oui, mais c'est l'extérieur, on est. Ah ça oui, mais alors, la colère, une révolte, un sentiment de colère, un truc qui ronde, qui monte devant. Non. Tristesse, une espèce de grande tristesse, cette montée d'amertume qui monte en moi. Moi, t'as. Jamais ça. Non, stade zéro. Stade zéro. Des émotions, j'en ai plein. Mais. Non. Amoureux, moi, jamais. Sentiment amoureux qui me prend entier, là. Jamais arrivé. Je sais pas ce que c'est. Agressivité. Non, il y a d'autres personnes qui sont pas visées parce que. L'émotion d'agressivité est tout le temps bon. Mais d'autres, ils disent non. Moi, au fond, je méconnais le sentiment qui m'habite. C'est le stade zéro. Je ne sens pas cette émotion. Cette émotion, ça ne me vient pas. Je ne connais pas. Pourquoi? Parce que c'est à cause du contexte dans lequel j'ai été éduqué. Par exemple, un sentiment de jalousie. Quand j'étais petit, avec la famille nombreuse, 6-7 ans, ou à l'école, à la maternelle, oh, le vilain est jalouse, oh, ça c'est pas bien, oh, que c'est pas bien d'être jalouse. Alors, oh là 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 là, c'était une petite enfant, elle dit, oh, ça vient d'être jalouse. Et puis après, t'arrives à la maison, qui fait ça, oh, que c'est pas bien d'être jalouse, va au lit, pas de dessert, va y aller. Et puis, plaf, la chiffre de papa et tout ça. Alors, du coup, j'ai un sentiment de jalousie, je veux pas l'avoir en moi, vous comprenez? C'est pas bien d'être jalouse. Ou alors, c'est pareil, c'est pas bien d'être en colère, hein. C'est pas bien, hein. Oh, que c'est pas bien d'être en colère. Alors, à cause de ces contextes éducatifs, vous voyez, qui sont importants, faire attention, pas éduquer les enfants n'importe comment, en les empêchant de gérer leurs émotions. Ils traînent ça pendant 60 ans après. Oui, je confonds la gestion des pensées et des émotions. Pap, pap. Vous voyez? Ah oui, non, s'il dit un mensonge, s'il dit quelque chose qui n'est pas vrai ou qui est faux, ça oui, ça. Et non, tu vois, ça c'est pas vrai, ça. Pas pareil. Tu dis que Paul, il a 12 ans alors que c'est pas vrai. Il en a 15. Tu dis que toi, tu as 5 ans et demi alors que c'est pas vrai. Tu as 4 ans et demi. Ça, d'accord. Oui. Mais la gestion des émotions, non. Quelqu'un, on doit pouvoir à un enfant. Alors, à cause de ça, il va y avoir donc le contexte social qui va faire ça. Deuxième cause, ça peut être aussi un refoulement. Bon, mais ça, vous le savez, je n'ai pas besoin d'insister. Il y a une espèce de vice, je m'enferme, et du coup, je veux plus rien savoir. N'est-ce pas? Alors il y a un espèce de refoulement et mon système de défense, par exemple, on m'a dit oh que c'est pas bien de mentir, je l'ai fait une fois. À la deuxième fois on m'a dit oh que c'est pas bien de mentir, mais j'ai pris l'habitude, n'est-ce pas? J'ai pris un pli de mensonge. Et alors du coup j'ai dit bon je veux pas changer là-dessus, je peux pas, enfin, c'est pas que je peux pas, j'ai pas envie, c'est comme ça, c'est trop commode. Et du coup, je vais me forger un système de défense. Un système de défense pour refouler cette émotion. Et du coup, j'arrive à ne plus la ressentir. L'émotion concernant, ici, à ce moment-là, la honte et le sentiment de culpabilité, qui lui-même, d'ailleurs, se transforme, vous le savez bien, en agressivité. Alors, donc, ça peut venir aussi du refoulement. Ce n'est pas forcément de l'éducation. Hein. Attention, hein. Il y a aussi nous, quelquefois, qui provoquons ce stade zéro d'immaturité émotionnelle absolue. Pourtant, le sentiment, il est là, puisque le besoin réapparaît tout le temps, fait réapparaître sans cesse les tensions, et l'émotion est là, mais je ne la ressens pas. Vous voyez, c'est terrible. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tension sur tension, et voilà. Et vous avez la source de toute, de pratiquement, oui, la plus grosse partie de nos maladies corporelles. Le corps va donc réagir, il va y avoir une somatisation. La tension va se faire si forte, s'accumuler, que du coup il va y avoir une somatisation, ou alors des maladies psychosomatiques, ou alors donc des névroses particulières. Alors par exemple, vous connaissez ça, mais rappelez-vous et notez bien, d'ailleurs il faudrait presque le mettre sur le tableau, n'est-ce pas ? En prolongement des sentiments qui sont là. Si c'est un sentiment, bon, par exemple, quand c'est le torticolis répétitif, vous savez, le torticolis répétitif, des problèmes de colonne cervicale, vous voyez, ici, là. Ah, si c'est un problème de colonne cervicale, c'est le signe d'une colère intérieure, mal gérée. Vous ne la ressentez pas. Ah, mais c'est une colère intérieure, ça se traduit psychosomatique. Si c'est des... Avec quoi, là, vous voyez, ici, là, vous voyez. C'est tordant d'ailleurs. Si vous avez affaire à un type qui est comme ça, et qui est directeur de l'école, bon, je vous préviens, faites gaffe. Hein. Parce que lui, il le sait pas. Mais vous, vous le savez. Il est cradingue, le mec. Hein. Très dangereux. Et ça va faire, si ça, ça pousse un peu loin, ça va faire des grands paranoïaques, surtout s'ils ont l'autorité. Hein. Alors, si c'est votre mère abbesse, alors, champion. Au chapitre, la mère abbesse, ma fille. Vous avez ma mère. Oh, c'est rien, c'est les cervicales. Ouf. Ma mère, oui.
Si elle a eu un accident.
Si elle a eu un accident, c'est précisément parce que le Seigneur veut lui montrer. Parce que si c'est les cervicales qui ont pété et pas le bassin. C'est pas par hasard. Alors, lorsque ce sont des fragilités respiratoires, des crises d'asthme, par exemple, des choses comme ça. Bon. Alors, ça, c'est le signe d'une anxiété intérieure. C'est la fameuse angoisse qui est là. Bon. Lorsque ce sont des troubles digestifs, même que... Alors, c'est le signe d'une terreur intérieure. C'est la terreur. On est terrorisé, on a peur. C'est le signe intérieur. Vous voyez, ordinairement, c'est la dénégation qui est là. Hein. Ah, c'est... Et d'ailleurs, c'est souvent des gens qui disent « Non, c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas... ça peut pas être... Comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Qu'est-ce que je vais devenir? Où est-ce que je... etc. C'est pas moi, enfin... C'est toujours c'est pas possible, c'est pas moi, c'est si pas la... C'est la dénégation tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est impressionnant. Et c'est vrai. Et vous avez, enfin,
aussi, par exemple, les migraines. Ah, les maux de tête répétitifs. Oh, qu'est-ce que j'ai mal à la tête. Oh, je ne sais pas ce qui me prend, une céphalée. Ah, l'horreur. Et c'est pas parce que vous avez fait, c'est pas parce que vous avez jeûné, hein. J'ai jeûné le mercredi, jeudi, vendredi, alors déjà le mercredi soir, je commence à avoir mal à la tête. Non, ça. Bon. C'est normal. Qu'il n'aurait absolument pas de problème au niveau d'une agressivité refoulée, qu'il n'aurait aucun sentiment de culpabilité, il n'aurait jamais mal à la tête lorsqu'il jeûne à l'eau. Mais comme on a tous un petit peu ça, je pense que c'est normal qu'on ait des... Mais quelquefois, vous avez une montée de céphalée, voyez ? Une montée céphalique. Il y a les descentes diarrhéiques, il y a les montées céphaliques. C'est les agressivités refoulées. Bon, etc., etc. Bon. Ou alors, s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas ces complications donc somatiques, il va y avoir des complications évidemment plus graves. Et que ce sera à ce moment-là qui vont se générer au plan psychologique, les dépressions notamment. Vous savez très bien que tension sur tension, ça va vous mettre dans un état dépressif, si fréquent actuellement, mais il y a aussi bien sûr les psychoses, etc., etc., et les manifestations de délire ou les manifestations donc névrotiques. Donc il faut bien comprendre que le stade zéro est un stade pathologique. Ça veut dire, quand on dit pathologique, ça veut dire c'est une maladie. Ordinairement, les gens vivent, les gens normaux et équilibrés, enfin, entre guillemets, vivent au stade 1. Les chrétiens doivent être au stade 2. Mais quand on est vraiment givré, on est au stade 1. Enfin bon. Et on est tous givrés. Hein. C'est pour ça que personne ne sort d'ici en se disant « Moi, je suis au stade 2. » On est tous givrés. Hein. C'est l'avantage de notre petit groupe. D'ailleurs, nous nous connaissons bien. Vous venez me voir. Hein. Vous venez me voir et on prendra quelques petits rendez-vous avec des spécialistes. Oui, parce que bon. Mais ne pas ressentir certaines émotions, c'est autre chose. Par exemple, vous dites, moi, je ne sais pas ce que c'est que l'angoisse. Vous dites, bon, l'agressivité qui monte comme ça de moi, je ne connais pas. Ou alors, vous dites, moi, la tristesse, d'être envahi par la tristesse, je ne connais pas. Ça m'est arrivé. Si, je peux être triste parce que j'ai perdu ma soeur dans un accident de voiture. Là, j'ai été triste. Vous comprenez qu'à ce moment-là, c'est pas monté de moi, quelque part. Vous voyez bien ce que je veux dire ou pas ? La différence qu'il y a entre la tristesse imposée et la tristesse profonde. Est-ce que vous voyez la différence? Vous la voyez, j'espère. Bon. Donc, si je ne ressens pas certaines émotions élémentaires et normales, c'est la preuve que dans le travail de deuil, j'ai refoulé une étape de conversion et d'assomption. Ça veut dire que dans mon travail de deuil, je n'ai pas voulu franchir une étape pour aller plus loin. Je me suis arrêté. Et je n'ai pas pardonné à Dieu. Je n'ai pas pardonné à l'autre. Je ne me suis pas pardonné à moi-même. Je me suis arrêté. Et donc, ça peut nous amener à nous poser des questions sur nous-mêmes. C'est quand même pas normal que je ne sente pas cette émotion-là. T'sais. N'est-ce pas? C'est pour détecter les émotions que vous ne ressentez pas au stade zéro, n'est-ce pas ça? Bon, stade 1. Oh. Vous me laissez encore un peu de temps? Vous craquez pas?
Non.
Vous craquez pas? Stade 2. Stade 1, pardon. Stade 1. C'est le stade minimum de la gestion et du contrôle des émotions, où cette fois-ci, il va s'agir de ressentir les émotions. Mais, ici, on va ressentir l'émotion, mais on ne va pas être capable de la reconnaître. On va dire, qu'est-ce qui m'arrive? Ça ne va pas bien? Ah, je suis mal? Mais, on n'est pas capable de dire si c'est une tristesse, si c'est de la jalousie, si c'est de la haine, si c'est, etc. Vous n'êtes pas capable, donc, de la reconnaître. Vous allez le ressentir.
Et surtout, vous n'allez pas vous avouer qu'elle vous habite. Parce qu'il y a des gens qui ne ressentent jamais ça. Et d'ailleurs, ça se transforme en maladie. Et du coup, ils ne ressentent pas. Mais vous le ressentez, mais vous ne voulez pas vous l'avouer. Exemple. Exemple, vous rentrez dans un groupe. Vous rentrez dans un groupe, et puis vous dites, au bout d'un certain temps, une jalousie. Qu'est-ce que c'est que celle-là? Une jalousie apparaît. Non, ça va pas. Qu'est-ce que c'est celle-là, là? D'où elle sort, là? On était bien avant et tout ça. Et maintenant, il y a cette personne-là qui arrive. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, une jalousie qui monte. Et puis vous dites, non. Et puis à chaque fois, vous la voyez, oh, cette personne-là, hein, dans une communauté. Dans un noviciat, c'est comme ça aussi, pas mal. Le noviciat, c'est génial pour ça. Hein. Ça, c'est un laboratoire extraordinaire. Si vous voulez vous marier, moi je vous conseille, les petites jeunes filles, les gens qui ne sont pas mariés là, encore, ah, je vous conseille, rentrez au couvent et faites 3 ans de noviciat et mariez-vous après. Vous avez gagné 15 ans de lutte à mort dans le mariage. Faites un noviciat dans un couvent. Je vous affirme qu'il y a 15 ans qui, au lieu d'être 15 ans d'enfer, fera 15 ans d'union sponsale avec des sentiments spirituels agréables. Sinon, je vous préviens. Tant pis pour vous. Et ça, je suis sûr de ce que je dis. C'est dans un évissard, ouais. Je ne rentre pas dans un évissard, il va m'arriver tout ça. Mais justement, il faut que tu résolves tes tensions et tes sentiments et la lutte en combat des émotions et que tu trouves la source de ton amour. Et sinon, tu vas aimer qui? Tu n'aimeras personne. Alors, ce sera l'enfer. Ce ne sera pas drôle. Mais grâce à cet enfer, quand tu auras 80 ans, tu vas enfin aimer ton mari. Hein? C'est quelqu'un qui n'accepte pas de rentrer dans un noviciat, quand même de l'envisager. Ça veut dire que c'est pas possible. Hein? Son mariage est foutu d'avance. Alors, donc je ressens cette angoisse, mais je veux pas m'avouer qu'elle m'habite. Vous voyez? Voilà un sentiment jaloux qui monte, et puis qui m'habite, hein? Et puis je... Fort bien, mais en même temps je me dis, ben non, c'est pas vrai, je suis pas jaloux, c'est rien, c'est le 14, c'est autre chose, et puis vite, c'est autre chose, vite, je vais faire la cuisine, je vais aller langer le pépé, enfin j'en sais rien, je vais bêcher mon jardin, enfin, je vais penser à autre chose, vous comprenez, vous voyez, je veux pas m'avouer que je suis jaloux, hein, je suis jaloux d'Anatole, pourtant il c'est pas très glorieux d'être jaloux d'Anatole, hein, parce que Anatole est plutôt béné. Hein. Être jaloux de ce coin-là? Non. Non. Alors, vous voyez, vous comprenez? Alors, évidemment, pareil, c'est aussi l'éducation qui fait ça. Hein, on arrive à ce stade. On ressent donc la chose, comme tout à l'heure. Ah, oh, c'était pas bien d'être jaloux, ou alors. Ton maître permet, ça t'es jaloux? Non, je vais y aller à l'horizon, je vais dire à Rosaire. Bon, comprenez? Bon. Voilà. Ou alors, ah oui, alors comment est-ce que vous repérez si vous êtes au stade 1? C'est quand quelqu'un met le doigt dessus. Quelqu'un vous dit, oh tiens, mais tu es jaloux, toi. Ou alors, vous pensez que c'est pas bien d'être en colère? Ah non, en colère, moi je suis pas en colère. Un sentiment de colère, mais je suis pas en colère. C'est pas moi qui suis en colère, c'est lui qui m'énerve. Et alors, il y a quelqu'un qui vous dit, mais. Il y a quelqu'un qui vous dit, oh mais donc, mais tu es toujours en colère. C'était une source d'agressivité en toi incroyable. Quelqu'un met le doigt dessus. Eh bien, ça t'énerve encore plus. Ça t'énerve encore plus. Mais ça prouve que vous êtes au stade 1 et pas au stade 2, tu vois ça. Ça, c'est de la jalousie, c'est pareil. T'as pas dit, tiens, ah, tu es jaloux de Caroline. Et du coup, tu es encore plus jaloux de Caroline. Vous comprenez? Au lieu que de descendre dans l'émotion, l'émotion monte encore plus. Ça, c'est stade 1. Mais c'est bon, mais je veux dire, c'est quand même un stade minimum. Au moins, les émotions, c'est-à-dire l'amour, n'est plus décapité. Il a encore quand même son effervescence, son dynamisme. Il est toujours dévié. Stade 2, il va être réparé, gestion des émotions. Alors, on a hâte d'arriver au stade 2, hein, n'est-ce pas?
Alors,
donc, le stade de 1, rappelez-vous, c'est je refuse ce sentiment comme habitant en moi. Voilà, c'est ça le stade. Je ressens, mais je refuse que ce sentiment habite en moi. Et bien ce stade-là, c'est un stade de minimum vital pour ne pas se couper de la vie affective et de l'appel à l'amour. Ça veut dire que je n'ai pas abdiqué absolument toute possibilité d'aimer. Voilà. Et donc nous sommes ici dans un contexte, dans le stade 1, très important sur le plan de la lutte et du combat spirituel, parce que il va falloir, pour aller plus loin ici, à ce stade-là, il faudra faire quoi? Il va falloir reconnaître en moi cet état émotif particulier qui m'habite, qui me fait honte, qui me fait souffrir, d'accord, qui me met devant mes responsabilités, et où j'utilise habituellement ce moyen de défense qu'on avait vu, et puis qu'on appelle le déni. Oh non, je suis jaloux. Puis je pense à autre chose. Oh non, c'est pas. Non. Par exemple, vous êtes marié, et puis vous êtes à côté de votre femme, et puis, je sais pas, à certains moments, vous êtes à côté d'elle, et puis vous avez en vous comme une montée de haine contre cette femme, qui est la vôtre en plus, avec une envie de la tuer. Non mais ne rigolez pas. Vous voyez, regardez le déni, vous voyez comment vous réagissez. Oh, pardon. Ah, pardon. Vous voyez, votre réaction est vraiment symptomatique. Pardon, c'est parfaitement habituel. C'est stade minimum, c'est ce que je vous dis, stade minimum vital. Et c'est tout à fait normal. Alors évidemment, je suis d'accord. Quand vous êtes là à côté de votre femme, vous l'avez choisi, vous avez un, puis devant Dieu, puis devant le prochain, etc. Et même devant le confesseur. Pas facile à avouer. Hein? Quand je suis à côté de ma femme, il y a une montée de haine telle que j'ai envie de la tuer. Il faut quand même se rappeler une chose très importante au niveau du combat spirituel, c'est que ce n'est qu'une émotion. C'est une déviation. Elle vient de vous, certes, mais ce n'est qu'une émotion. Au plan spirituel, vous le savez, on n'est pas responsable de ce qu'on ressent. C'est la différence entre la responsabilité et la culpabilité. Ça, on l'a vu longuement, n'est-ce pas? J'espère que vous avez bien pigé ça. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, depuis 7 ans à peu près, qu'il ne faut jamais s'appuyer sur ce qu'on ressent. Il ne faut jamais s'appuyer sur ses impressions. Jamais. Et il ne faut jamais se sentir responsable de cela non plus. Il faut accepter la réalité. Il faut accepter cette réalité de ce qui monte en vous, la haine, le désir de tuer ma femme, si vraiment vous voulez en refuser l'acte, c'est-à-dire l'application. Si vous n'en refusez pas l'application, alors vous allez garder en la refoulant par le déni cette émotion de non, mais là, du coup ça vous permet de garder ce meurtre en vous de la femme. Mais si vraiment vous voulez ne pas la tuer et ne pas être dans une haine qui aille jusqu'au meurtre, alors à ce moment-là, vous laissez monter l'émotion, vous l'acceptez telle qu'elle est, vous la laissez monter jusqu'à un certain point, mais on va voir justement en gestion des émotions comment il faut faire, de manière précisément donc à rentrer dans un fait, dans un mouvement de vie où je vais justement ne pas l'actuer. Voilà, je vais la transformer, cette émotion. Elle va se transformer, grâce à Dieu, heureusement. Mais la première chose, quand même, c'est d'en accepter la réalité. Donc nous sommes responsables de ce que nous faisons de cette émotion. Nous ne sommes pas responsables d'avoir cette émotion. Est-ce que c'est clair, ça? Si vous avez un sentiment de jalousie, bah, c'est très bien. Mais si du coup, vous cancanez, vous allez voir le responsable, vous allez dire, c'est ça, comme ça, eh ben, j'ai décidé de faire comme ça, c'est-à-dire vous allez poser des actes correspondants, ah, à ce moment-là, ça, c'est pas bien. C'est ce que nous en faisons qui compte. C'est pas l'émotion elle-même. Ça va? C'est clair? Là, pour ce personnage, là, je pensais, c'est parce qu'on pensait à un bonhomme qui, comme ça, il se mettait avec sa, dès qu'il se mettait à côté de son épouse, et la haine qui montait avec l'envie de l'étrangler. Mais pas seulement l'étrangler, de l'arracher les membres, quoi. Et arracher les membres avec une espèce de... En réalité, ça venait du fait que sa maman, lorsqu'il était dans le sein maternel, avait fait des manœuvres d'avortement sur lui-même, tandis qu'il était dans le sein maternel. Et donc, il s'en était induit de là, une espèce de mécanisme de défense par rapport à la femme, sa mère. Hein. Et puis, ce mécanisme de défense, de protection, si je puis dire, et de haine, ça s'est transformé en haine à cause du péché originel, vis-à-vis de la femme. Et du coup, bon, ben, il avait, vis-à-vis de la femme qui était son épouse, qui était bizarre quelque part, de la maternité, ben, il avait donc ce sentiment qui montait, et c'est normal. Donc ici, ça ne relève pas du péché. Ça relève d'une guérison intérieure, d'une délivrance, et puis c'est tout. Donc il faut bien le comprendre. Encore faut-il que la personne ose en parler, évidemment. Il faut que la personne le confesse, ose en parler, et reconnaisse ce qui l'habite. N'est-ce pas? Ça, c'est sûr. C'est la première chose, évidemment. Donc si la personne repousse encore, elle va rester bloquée à ce stade 1, et elle ne va pas avancer. Vous comprenez le problème? Et donc elle va rester au niveau de cette responsabilité embryonnaire où elle n'a pas pu assumer la chose et elle l'a assumée dans une petite brisure du péché originel qu'on appelle la haine. Ça pourrait être aussi l'orgueil, ça pourrait être aussi la volonté de puissance, ça pourrait être aussi la concupiscence. C'est les quatre déviances embryonnaires. Hein. Alors, voilà. Et du coup, bon, vous allez vous trouver à ce stade 1, vous n'avez pas avancé. Et vous allez du coup être bloqué, et du coup ça va, par exemple, engendrer des moments de tristesse. Vous vous retrouvez là, pourtant le contexte est porteur, il y a la nature, tout le monde vous aime, vous avez toute la vie devant vous, et puis c'est pas vous pleurez, vous êtes triste, vous êtes bloqué. Hein. Souvent les tristesses viennent des gens qui sont au stade 1. Souvent c'est ça, c'est vrai, il faut bien voir. Cette tristesse qui vous submerge d'un seul coup, vous savez. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça pour... Ou alors vous avez d'autres phénomènes de ce genre, vous comprenez, des phénomènes analogues. Alors en fait, ce sont souvent des blessures très profondes de l'enfance. Ça. Très très profondes. Donc, rappelez-vous que le stade 1 consiste à ressentir les émotions, mais à ne pas savoir les gérer. Le stade 2, eh bien, cette fois-ci, consiste à ressentir les émotions, d'une part, à savoir les reconnaître, d'autre part, les laisser monter, savoir les reconnaître, les exprimer, et troisièmement, les ayant exprimées, apprendre à les gérer. Voilà comment les psychologues, c'est classique, ça fait partie de la culture générale. Béaba, si vous rentrez dans la première année de psycho, on va vous dire stade 0, stade 1, stade 2. Alors psycho, c'est bac plus 1.
Et après, vous avez le droit d'avoir un petit poste à la mairie de Tucugnan pour balayer les rues. Bac plus 1. Je crois que c'est le seul emploi qu'on arrive à avoir avec le bac plus 1. Balayeur des rues. Bon. Eh bien, ben voilà. Bac plus 1, on doit savoir ça. Stade 1, stade 0, stade 2. Ce que c'est. Ah. Bon, alors écoutez. Eh bien, on va voir le stade 2 de deux choses. Ou bien vous êtes en forme. Et puis, on le voit ce soir ou demain matin. Parce que alors là, putain, je ne pensais pas que ce serait aussi long. Parce que pour moi, je pensais faire ça en 10 minutes, même pas. Parce que quand il va falloir chacune des émotions particulières, c'est différent pour chacune. Hein. C'est pour ça. On va voir. Mais là, on va arrêter là maintenant. Et on va regarder le stade 2, généralissime, général. Et puis ensuite, on va commencer, ce sera demain, je suppose, maintenant on va voir. La question de la gestion concrète hein, donc, des émotions pour se convertir. Et pour pouvoir avoir cette liberté, cette puissance, voyez, cette énergie, retrouver cette volonté et retrouver, j'allais dire, cette force, cette efficacité, cette fécondité, de pouvoir choisir à nouveau l'amour concrètement. C'est le but, évidemment. Et chaque émotion est une chance pour nous, pour aller jusqu'au bout donc du travail de deuil. Ça va? Et c'est ce qu'on va essayer de voir. Je m'excuse, ça va vous faire un samedi et un dimanche très lourd, parce que je reconnais que ce sont des choses ici qu'on soulève qui sont lourdes. C'est pas commode hein, de regarder ces trucs-là en face. Mais enfin, notez bien quand même, parce que c'est quand même intéressant, et c'est peut-être aussi important, parce que nous allons rentrer quand même, me semble-t-il, dans une phase de la vie chrétienne, dans cette montée vers l'an 2000, où on ne va pas pouvoir se permettre de rester au stade 0 ou au stade 1. On ne peut pas se le permettre. Si on veut être vraiment les disciples, le petit reste, le petit oasis autour du Saint-Père, autour de l'Immaculée, autour de l'amour brûlant qui brûle le cœur de Jésus du fond de notre âme, si nous voulons être entourés de toutes les armées angéliques pour faire le miracle des trois éléments, c'est-à-dire d'être capable de créer un monde nouveau, il faut bien entendu être capable de gérer ses émotions, c'est-à-dire de rentrer dans le combat spirituel. Et c'est le numéro un du combat spirituel, d'accepter de se convertir au niveau donc de l'amour. Et le signe qu'on refuse de se convertir au niveau de l'amour, c'est qu'on n'accepte pas de gérer les émotions. Donc c'est pour ça que c'est quand même un examen de conscience prodigieusement important. Hein? Voilà. Et il faut absolument qu'on y arrive, quoi. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ne vous inquiétez pas, à partir du moment où on aura vu ça, vous pourrez, après, l'année prochaine, dans 2 ans, me poser des questions. Je pourrais y revenir. On reviendra sur des détails, si vous voulez. Moi, je veux bien. Mais on ne reviendra pas dessus. Le PPP sera terminé. Mais n'empêche qu'il faut quand même, à partir du moment où on est rentré dans le combat spirituel, accepter. Parce que si on est rentré dans le combat spirituel, ah, ça y est, on peut rentrer dans la vie théologale. Cette fameuse vie théologale dont j'ai l'ambition, n'est-ce pas, de regarder la base de départ à Lourdes en septembre prochain. Base de départ. Le microprocesseur théologal qui nous permet d'être les créateurs et le recréateur du monde nouveau. C'est une ambition céleste. Et terrestre aussi, ça c'est sûr. Mais c'est vrai, c'est une très grande ambition. N'empêche qu'il faut absolument qu'on puisse se trouver sur le tremplin profond qu'on appelle le centre de l'âme, là où elle est liée à mon corps. C'est de là où je suis à la ressemblance de Dieu. que recevant la grâce sanctifiante, je peux concrètement, à partir de la lumière qui irradie toute mon intériorité, à partir de mon corps qui s'est enfin unifié à mon âme, rentrer dans le grand combat eschatologique. Et le grand combat eschatologique, il implique tout le monde angélique. Il ne faut jamais l'oublier. Et c'est tout le monde angélique qui va être présent. Mais le monde angélique, tu ne le mobiliseras pas si tu n'as pas rentré, si tu n'as pas accepté de lâcher prise, hein, au niveau donc de tes blessures affectives. Et si tu as refusé de rentrer dans le pardon et donc dans la fameuse guérison de la mémoire. Parce que si tu as refusé de rentrer dans le pardon et la guérison de la mémoire, il n'y a aucun danger que tu puisses vivre de la mémoire ontologique. Je veux bien pardonner, mais pas oublier.
Oh, je veux bien pardonner, pas oublier, dis donc, ouais. Molo.
Qu'est-ce que c'est cette histoire? Tu pardonnes et tu oublies. Ah non, moi non plus. Ça ne m'étonne pas. Mais sérénité ou pas de sérénité, sérénité, ça reste une émotion. Je pardonne et j'oublie pas, ok? Mais si j'oublie pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui remonte encore, ça veut dire que je n'ai pas vraiment pardonné. Donc je repardonne à chaque fois, jusqu'à ce que ce soit oublié. Et si j'oublie pas, ça prouve que je suis appelé, c'est une grâce de Dieu d'ailleurs, parce que j'ai été blessé qu'une fois, et je peux pardonner 100 fois. Donc c'est une grâce de Dieu. Je peux faire 100 fois plus de bien que je n'ai fait de mal. C'est grâce à ça que l'oubli s'efface plus difficilement que le pardon, n'est-ce pas? Que l'exigence du pardon. Mais n'empêche que lorsque le pardon a été au centuple, eh bien l'oubli, il a été jusqu'au nœud, j'allais dire, de son problème. Et donc il permet la transfiguration. En tout cas, il est certain que si on ne rentre pas dans la gestion des émotions, dans cette fameuse guérison, eh bien, il est bien évident que la mémoire ontologique, eh bien, elle nous passe ici. Ça veut dire que notre corps ne pourra jamais devenir un corps spirituel. Jamais. Sur cette vie terrestre, il le sera quand on ressuscitera. Mais enfin... Et cette histoire de mémoire ontologique qui va utiliser le point de vue de toute notre humanité, vous voyez bien, cellules, particules comprises, avec toute notre corporéité, et juste dans ce point de vue tout à fait fondamental, des retrouvailles avec notre origine, notre innocence divine, eh bien, nous permet de mobiliser toutes les puissances angéliques. Et c'est ça, ce qu'on verra peut-être, c'est très important, ça. Parce que c'est là où notre âme spirituelle, la mémoire ontologique, la cellule, le point de vue très fondamental du corps, là où notre corps rentre dans le combat spirituel lui-même, avec son efficacité prodigieuse. Faites ceci en mémoire de moi. Jésus dit ça à propos de son corps. Et il s'adresse à nous, qui sommes son corps. À travers l'Eucharistie, on est son corps. Et c'est mon corps. Et c'est son corps. Et faites ceci en mémoire de moi. À ce moment-là, c'est efficace. Le sacrement du corps du Christ est efficace, ex opere operato, immédiatement. Mais si, par cause de la fameuse... les problèmes qu'on a, etc., et si, et si, et là, on ne veut pas faire le travail de deuil, le travail du pardon jusqu'au bout, et le travail de la lutte spirituelle, ben, il n'y a pas de danger qu'on retrouve, j'allais dire, la puissance de notre corps, qui terrorise tellement les démons. Rien n'est plus, n'est une terreur plus grande pour le démon que notre corps. Soyez gentils. C'est notre corps qui terrorise les démons. C'est pas nos vertus. Parce que les vertus, le démon peut en avoir. Parce que le corps, il n'arrive à rien. Il ne peut pas. Alors c'est pour ça que c'est si important cette histoire. De comprendre comment il faut rejoindre notre unité corps et âme spirituelle dans cette grande mémoire de la paternité de Dieu. Dans notre corps. Et à ce moment-là, la présence de l'image et ressemblance de Dieu dans notre corps habite toutes les cellules de mon corps. Et du centre de mon âme, à ce moment-là, je vois que surgit à la place ou à travers, ça m'est égal, ou au cœur comme la sève dans un arbre, de ces émotions qui montent, surgit le feu qui brûle physiquement le cœur du Christ dans la résurrection. Le cœur de Jésus qui brûle dans la résurrection monte là. Et il emporte mon corps. Et à ce moment-là, nous sommes entre lui et nous. Il y a une tension qui est à l'intérieur de nous. Et dans cette tension, il y a tout le monde angélique. Et on peut mobiliser tout le monde angélique. À ce moment-là, tout le monde angélique, toute notre humanité et tout l'amour qui brûle le cœur du Christ et de la Vierge se rassemble dans un seul amour. Et c'est ce qu'on appelle le miracle des trois éléments. Et on verra que ce miracle des trois éléments, c'est un émetteur-récepteur qui se trouve au centre de toute la création, de tout notre univers. Et c'est le seul moyen pour nous de faire partir le mal, de faire partir le mal, de faire partir Lucifer, de désagréger le mal. La victoire. Mais c'est... Bien sûr, c'est notre vocation. Et c'est la vocation de l'Église, des témoins de l'Apocalypse, des témoins des derniers temps, qui donc vont préparer le retour du Christ. Et c'est un petit peu ça. Mais vous comprenez bien que cette histoire de gestion des émotions, c'est un petit préalable quand même important. Parce que si, j'allais dire, cette porte d'entrée dans l'âme spirituelle, dans son lien avec le corps, pour réaliser une liberté de la mémoire ontologique. Vous comprenez? C'est-à-dire que, bon, il va falloir que c'est concret quand même, ça. Ben, si on ne peut pas rentrer parce qu'on ne veut pas gérer, parce qu'on ne veut pas assumer, parce qu'on ne veut pas, on ne veut pas lâcher prise, parce qu'on ne veut pas donner, parce qu'on ne veut pas pardonner, parce qu'on ne veut pas oublier, parce qu'on ne veut pas, je ne sais pas moi, parce qu'on ne veut pas lâcher, parce qu'on ne veut pas se décrocher, parce qu'on ne veut pas rentrer dans l'insécurité, soi-disant. Voilà, à ce moment-là, c'est dommage, parce que du coup, on rate le coche, quoi. On rate le coche. On a été choisi pour, avec l'Immaculée, quoi, dans cette espèce de royauté d'amour, puisque elle est, j'allais dire, celle qui est enveloppante, quoi, celle qui, l'homme est enveloppé par la femme, comme dit le livre de Jérémie, le prophète. C'est vrai, quand Marie est reine, son cœur est immaculé, enveloppe le cœur sacré de Jésus. Et c'est la même enveloppe, exactement comme notre âme enveloppe notre corps, que notre corps enveloppe notre âme. Le cœur immaculé de Marie, qui est un océan immaculé d'amour, il brûle du feu qui brûle le Christ dans son cœur sacré à la résurrection. Et ça, cette unité de feu corporel entre l'amour féminin absolu et l'amour masculin absolu produit une fécondité. Et cette fécondité, c'est quoi? C'est ma grâce à moi. Ouais. C'est ça que j'aimerais qu'on regarde. Hein. Mais je vous le dis tout de suite, comme ça réfléchissez-y. Et déjà, essayez de le trouver au fond de votre âme. Au fond de votre âme, une espèce d'immense cuve d'où émane plein d'émotions, n'est-ce pas? Qui monte. Au fond, vous descendez au fond de votre âme, au fond de votre âme ici. Cette âme, elle est irriguée par la grâce sanctifiante. Je sais pas comment ça. Donc, au fond de votre âme, au fond de votre âme, là voici votre âme en bleu, je le mets en bleu, c'est ça. Cette âme, elle est irriguée par la grâce sanctifiante. Et cette grâce sanctifiante, c'est quoi? C'est le fruit de l'unité sponsale du feu qui brûle corporellement et glorieusement l'unité du cœur et de l'amour féminin absolu et de l'amour masculin absolu, traduisez le mystère de l'Assomption. Marie-Reine, c'est ça. C'est que du coup, Marie-Reine,
c'est cette grâce qui est au fond de votre âme. Et donc vous êtes dans le Sacré-Cœur. Et dans cette présence rayonnante, brûlante, chaleureuse, infiniment parfaite et absolue de l'unité sponsale du cœur divin de Marie, du cœur sacré de Jésus. Et à ce moment-là, à cause de ça, vous comprenez, vous voyez bien ce que je veux dire, l'homme, l'époux, l'épouse se conjoignent pour réaliser l'unité des deux, et l'unité des deux, ce n'est ni l'époux ni l'épouse, c'est l'unité des deux. Et l'unité des deux, c'est quoi? C'est nous. C'est nous les acteurs de la Jérusalem céleste. C'est nous le germe, notre grâce, c'est le germe de la Jérusalem céleste. C'est nous qui l'engendrons. C'était réservé à l'Immaculée d'engendrer le Christ. Mais c'est réservé aux apôtres des derniers temps d'engendrer la Jérusalem céleste. Faut pas l'oublier. Et ça, c'est un apostolat tout intérieur. Caché. Petit. Pauvre. Parce qu'on s'est désapproprié de tout. On s'est désapproprié de nos agressivités. On s'est désapproprié de tout ça, vous comprenez? On a voulu résoudre ça. On a accepté de voir ces sentiments nous habiter et puis d'aller jusqu'au bout de leur résolution, de leur source, si je puis dire. Et du coup, on va trouver cette grâce au fond de notre âme, là où elle se lie à notre corps. Et du coup, notre corps deviendra un corps spirituel. Il faut apprendre ça. Ça, c'est le grand microprocesseur, émetteur, récepteur de la centrale divine qui doit faire exploser atomiquement toutes les puissances de mal dans ce monde. Et c'est vachement efficace, hein. Vous allez voir, ça va être spectaculaire, les mecs. Ça va être spectaculaire. Alors, comprenez bien. Et ça, cette unité, notre puissance dans l'âme, c'est pas tout à fait la vie contemplative. La vie contemplative est impliquée. La foi va être impliquée. C'est pas tout à fait la charité, notre volonté, notre cœur profond. C'est la mémoire ontologique qui est là impliquée. C'est ce lien entre notre âme et notre corps. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, nous allons devenir, notre humanité va devenir instrument. Dans la vie contemplative par la foi, nous sommes cause première. Dans la vie d'amour et de charité, nous sommes cause seconde. Et dans la vie finale, de la sainteté finale, nous sommes cause instrumentale. Et c'est ce que nous verrons, mais ça c'est notre programme sur l'été, quoi. On va se mettre en tension tout cet été. Mais déjà maintenant, puisque c'est la fête du cœur sacré de Jésus et du cœur immaculé de Marie, aujourd'hui, comprenez bien ça. C'est qu'il faut apprendre à regarder au fond de nous, dans notre âme. Il ne faut pas le faire imaginativement, il faut le faire à partir de la réalité de nos émotions pour arriver à voir qu'il y a une source d'amour là qui implique un besoin qui s'est dévié. Et qui se dévie et qui se manifeste, cette déviation, par le sentiment en question d'agressivité, de jalousie, de haine ou quoi, n'est-ce pas? Et il faut du coup accepter de rentrer jusqu'à sa racine, trouver là le lieu, pour ainsi dire, où notre âme touche notre corps, et donc notre soif d'amour. Et s'installer dans cette soif d'amour, y retrouver là, parce qu'on s'est confessé, parce qu'on vit des sacrements, la présence du cœur sacré de Jésus qui brûle, le cœur immaculé de Marie dans une unité sponsale parfaite, absolue. Et laisser monter du coup cette flambée d'amour dans mon corps. Et à ce moment-là, j'invite toutes les puissances célestes à puiser dans mon humanité pour chasser tout ce qui est mal dans le monde. Ça, il faut apprendre à faire ça. Et c'est facile à faire. C'est très facile à faire. Que personne ne vienne dire, qu'est-ce que c'est compliqué. Et c'est ce qu'on verra. On va essayer de simplifier de plus en plus.